Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur ce thème. C'est écrit dans le Zohar, par rapport à cette année, un langage un petit peu spécial. Alors je vous prends directement la traduction en hébreu, qui dit Ve'im, Ro'im Adam, She'ezbo, Elu, Madrigot, Kulam, She'en, Nefesh, Roach, Neshama. Si on voit chez quelqu'un qu'il a ces trois niveaux, qui sont Nefesh, on va dire le psychique, et Roach, un niveau supérieur, et la Neshama. Et on ne sait pas exactement ce qui c'est. Si on ne connaît pas bien bien quelqu'un, comment on va savoir si on peut s'approcher de lui ou non, est-ce qu'il vaut mieux s'écarter de lui? Il dit le Zohar, dans la colère, on connaît vraiment quelqu'un. Il chomer les chamas à Kedusha. S'il arrive à maîtriser, à garder sa sainte Neshama, son âme, a ibéchaab qu'à ce moment de sa colère, Shelo Yaakor Otan Mekoma, qui ne va pas la déraciner de son endroit, Veyavo Lishrot Bimkoma Elza, pour faire régner à sa place un dieu étranger, Zéou Adam Karaou, ça c'est un homme comme il faut, Zéou Evet Deribolo, ça c'est un serviteur de son maître, Zéou Adon Hashanan, ça c'est un homme complet. Ici, le Zohar, il donne une définition. Elle est très concise. On va essayer de la développer et essayer de la comprendre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Après, il donne le contraire. Et si un homme n'arrive pas à garder cette neshama, on va voir ce que ça veut dire garder une neshama. La neshama, elle est à l'intérieur de la personne. C'est l'âme. Comment elle peut partir, la neshama? C'est bizarre de ne pas garder la neshama. Et il déracine cette sainteté élevée. Ou Machrebim Koma, il a fait régner à sa place Sitra Acha. Sitra Acha, c'est un niveau d'impureté très très haut. Bon. Vadaï Zehu Adam Shemarat Be'adono, c'est sûr que ça c'est un homme qui s'est révolté contre son maître. Ve'asur le Ka'er Elav, il est interdit de s'approcher de lui, ou les Traverimo, et d'avoir des liens avec lui. C'est-à-dire que le choléreux est quelqu'un de dangereux, radioactif. Ve'zehu Toref Nacho Be'abo, et ça c'est écrit dans le Passouk. Toref Nacho, il déchire son être, son âme, Be'apo dans sa colère. Chez Toref, Ve'oker Nacho, Mechamat Ka'aso, parce qu'il va déchirer et déraciner son épèche, son psychique, ou son âme, Mechamat Ka'aso à cause de sa colère. Ou Mashri Be'atmo Elzar, il va faire régner en lui-même un dieu étranger, Ve'ala Mekatou. Et sur lui, il a dit le passage, Khazdou la Femida, Ida Adam, Hashem Neshama, Be'apo. Écartez-vous de l'homme dont la Neshama est sur sa base, dans sa colère. Aïnou, chez Torek, Neshama, Kedusha, c'est-à-dire qu'il a déchiqueté sa Neshama sainte, Ve, Ometame, Ota, Vishvil, Apo, et il va la rendre impure à cause de sa colère. Daïnou, Nechama, Sheba, et Dekaas, parce qu'il en vient à la colère, Hashem, Ichnis, Neshama, Bekaas, Nishmato, Bekaaso, oui. Alors après, c'est marqué qui Bema Nirshavu, parce que dans quoi il est considéré, c'est quoi Bema? Il dit, le Khamil dit, c'est quoi Bima? Bima. Bima, c'est un hôtel d'idolâtrie. Et le commentaire, il compare le coléreux avec, ou la coléreuse avec un idolâtre. Alors comment ça fonctionne? Si on analyse un petit peu ici, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Quand c'est marqué que quelqu'un, au moment où il est en colère, alors il déracine sa neshama. Et il met à la place un dieu étranger. La grande Shabbat, elle dit, ce dieu étranger, c'est le Yitzhara, c'est le mauvais penchant. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'à l'intérieur d'un homme, il y a le conscient, il y a l'inconscient. Il y a la volonté, il y a la non-volonté. Il y a la bonne volonté, il y a la mauvaise volonté. Il y a l'enfant, il y a l'adulte. Maintenant, quand moi je ne veux pas faire régner l'adulte en moi, automatiquement j'ai laissé la place à l'adulte. Maintenant, c'est une loi physique, le vide n'existe pas. Quand vous avez une bouteille, vous voyez, s'il y a de l'eau, il n'y a pas d'air. Si vous enlevez l'eau, il y a de l'air. C'est ou l'air ou l'eau. Maintenant, moi, si je ne mets pas la bonne volonté, c'est la mauvaise volonté. Et quand il va dire, oh, non, j'ai rien fait, je ne suis pas enlevé. C'est-à-dire, ni halavi, ni basari. Non, ça. C'est ou de la bonne volonté, ou de la mauvaise volonté. Ouais, ou je suis moi-même, ou je suis quelqu'un d'autre. Maintenant, quand quelqu'un se surprend lui-même à dire, je ne suis pas moi-même, il doit se poser la question qui il est. Vous êtes combien là-dedans? Ouais. je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, ça n'est pas ce que je voulais dire, les mots ont dépassé ma pensée. En fait, à chaque fois que je suis absent, le Yetzirah, il est présent. À chaque fois que je suis présent, le Yetzirah, il est absent. Même en psychologie, tu vas l'appeler, quand je suis dans un esprit de construction, je ne suis pas dans un esprit de destruction. Quand je suis dans un esprit de destruction, je ne suis pas dans un esprit de construction. Quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelqu'un qui est dans la négation, quelqu'un qui est dans le mensonge, on ne peut pas parler, c'est pas la peine de parler, ça ne sert à rien. Tu dis, mais non, je vais l'expliquer, c'est impossible. Hier soir, j'ai fait une conférence à Paris. Après, il y a des parents qui sont venus me voir, affolés comme ça. Leur fils de 17 ans, il a des tocs. Il a des tocs, d'accord. Maintenant, des tocs, c'est des problèmes psychologiques, il a des... Il va vérifier 54 fois la clé. C'est quoi, non? Non, en français, ça s'appelle des tocs. C'est quoi, non? Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est un petit peu... C'est déjà dans le psychiatrique, un petit peu. Mais c'est quoi l'idée? Que cette personne... Alors, le papa, il me dit, oui, il me manque de respect, il me parle mal. Je lui dis, mais non, c'est pas lui. Quand quelqu'un est dans la crise, tu parles pas à la personne qui est en face de toi, parce qu'il est pas là. Après, la preuve, après, il t'envoie un texto, il dit, papa, excuse-moi, je t'ai mal parlé, tout ça. Alors je lui dis, je comprends pas, celui qui texto, c'est quelqu'un, et celui qui te parle mal, c'est un autre, alors il vous dit, combien? Après, il dit, oui, mais j'arrive pas à supporter. Je lui dis, supporte pas que quoi, que ton fils, il a un problème. Comme ton père, il est malade, ou ta maman, elle est fatiguée, ou l'autre, elle a un père Alzheimer, alors tu dis, elle se rappelle de rien. Elle a Alzheimer, c'est grave. Donc si ça l'énerve, comment tu t'énerves de quoi qu'elle est malade? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, la personne, on a pris un cas extrême, mais la personne, elle a tout le temps ce contact avec elle-même. Maintenant, ce qu'on appelle en hébreu le da'at, la conscience et la volonté, c'est le lien qu'on entretient avec la neshama. Maintenant, moi, je peux décider de garder la neshama en moi, ou alors je peux lâcher la neshama. Maintenant, quand je la lâche, vous voyez, automatiquement, je vais mettre autre chose à la place. C'est autre chose. C'est pour ça que la vraie colère, on parle, bien sûr, on parle pas de la colère quand quelqu'un fait semblant de crier devant les enfants, ou genre il se met en colère devant les employés. Non, ça c'est pas la colère, ça. La colère, c'est quand il y a la perte de maîtrise totale. Vous voyez? Que même la personne, elle dit, là vraiment, je n'étais pas moi-même. Elle se rappelle même pas ce qu'elle a fait. Elle a tout cassé, elle revient du truc à des arts. Elle dit, en français, maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, c'est un truc très bizarre. On dirait que les esprits, on les perd. Après on les cherche, après on les retrouve. Oui, j'ai retrouvé mes esprits. Et c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir en tête. Parce que ça, c'est le langage. Au Kernishmato Akedusha, il déracine sa neshama, il met à la place quelque chose d'autre. Maintenant qu'il met à la place, volontairement, ou qu'il laisse entrer autre chose, c'est la chose. Et cette logique-là, et c'est ça la vraie logique de la colère, la vraie logique du chaos, c'est pour ça qu'on était. On voit que la colère, par exemple, c'est un très très haut niveau d'impureté. Oui, on dit la colère, c'est quelqu'un qui est coléreux, au moment où la colère elle rentre en lui, ça peut être comparé à quelqu'un qui a été voir une prostituée, au niveau de l'impureté. Une prostituée, c'est très impur. Ça a l'air comme ça sympathique, mais c'est très très impur. Oui. Oui. Maintenant, quel rapport entre la colère et l'impureté? En vérité, c'est quoi l'impureté? Les gens, ils croient que l'impureté, c'est quelque chose de magique, ou de magnétique, ou d'électromagnétique. Non. L'impureté, c'est très simple. L'impureté, c'est l'état d'être de la mort. À chaque fois que quelque chose meurt, il devient impur. Tant qu'il est vivant, il est pur. Maintenant, quand est-ce que la mort, elle vient? Quand la neshama quitte le corps. Ça, c'est la normale. Maintenant, normalement, quelqu'un, il est ou mort, ou vivant. Quand il est vivant, il est pur. Quand il est mort, il est impur. Ça va? Maintenant, après, il y a une personne qui est en contact avec la mort. Il est vivant, mais il touche un mort. Au moment où il touche le mort, il devient impur. Mais lui, c'est comme si on lui a rajouté une couche extérieure de peinture qui s'appelle une impureté. Mais lui-même, oui, il n'est pas devenu impur dans son fond. C'est qu'il est en contact avec la mort, il devient impur. Maintenant, il y a une autre dimension d'impureté. C'est que la neshama n'a pas quitté le corps, mais il y a une séparation qui a été créée entre la personne et la neshama. On appelle ça la chatzitza. Une séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de contact entre moi et ma neshama, c'est mon da'at, c'est ma conscience. Maintenant, si moi je deviens inconscient, oui, alors je fais une séparation, donc mon corps et mon esprit n'est plus nourri par la lumière de ma neshama, donc c'est comme s'il était mort. Donc ça s'appelle impureté. Vous avez suivi? Ça va trop vite? Si vous prenez une lampe, il y a une pile et une ampoule. Donc le contact, ça fait la lumière. Et si vous mettez un petit bout de papier entre la pile et l'ampoule, l'ampoule ne marche plus. Pourtant, il y a la pile. Alors des fois, l'impureté, elle peut venir, même quand la neshama n'a pas quitté le corps, simplement parce qu'on a fait une séparation. Comment on appelle cette séparation? On appelle ça la mauvaise volonté, l'entêtement, la lourdeur, les complexes, les nerfs, le stress, c'est la chassitza. Vous suivez ou non? Maintenant, étant donné que la neshama, elle produit la pureté, elle produit aussi la vie. Donc quand je me sépare de ma source de vie, automatiquement je deviens pur. Maintenant, si quelqu'un va dire, bon, bah, qu'est-ce que ça change? Je suis pur, je ne suis pas pur, qu'est-ce que ça change? Et ça change tout. Parce que la clairvoyance, la bonne volonté, l'esprit positif, c'est ça la pureté. Vous suivez ou non? Comme on dit en français, oh, vous savez, je savais très bien, mais j'ai fait le mort. C'est quoi j'ai fait le mort? J'ai fait les gens que je ne comprenais pas. Oui? Maintenant, quelqu'un dit, genre, quelqu'un qui ne veut pas regarder, ou quelqu'un qui ne veut pas assumer, ou quelqu'un qui s'enfuit, ou quelqu'un qui se réfugie. Il a fait le mort. Maintenant, faire le mort, ça génère de l'impureté. Maintenant, le problème, c'est que l'impureté, en hébreu, c'est Tum'a. Et Tum'a, c'est les mêmes lettres que Atum. Et Atum, c'est boucher. Donc l'impureté, elle génère des bouchons. Les bouchons, ils engendrent l'incompréhension, les malaises, les peurs, et ensuite les névroses, les psychoses et la maladie. Juste sur la base de l'impureté. Ça veut dire que la maladie, en vérité, ouais, la maladie, c'est juste le reflet d'un dérèglement spirituel. Avec entre les deux, un dérèglement psychologique. C'est que les gens, ils s'affolent quand ils voient le symptôme. Il ferait mieux de s'affoler sur la cause. Parce que quand le symptôme apparaît, c'est-à-dire que la maladie, elle est bien, bien avancée. Ça, je vous donne toujours l'exemple du cancer. Le cancer est une maladie pourrie. Parce qu'elle travaille en silence. Le jour où elle se dévoile, on peut la voir, ou on peut la toucher, c'est vraiment que c'est foutu. Vous voyez? Alors, au lieu d'imaginer le cancer des poumons, ou le cancer de la gorge, ou le cancer du pancréas, ouais, pourquoi tu ne prends pas le cancer de la bonne volonté? Le cancer de l'intelligence, le cancer de la patience, le cancer de l'amour. Pourquoi tu ne prends pas celui-là qui ronge, qu'un jour la personne a dit, je n'ai plus d'amour. Son amour a été gangréné à l'intérieur. Ouais. Je n'ai plus d'admiration. C'est aussi une forme de cancer qui peut générer la maladie aussi. Donc, si tu veux, non. Et c'est quoi cette logique? C'est que, vous avez bien compris maintenant, où tu gardes le contact avec la source de vie, c'est pour ça que la neshama, elle s'appelle Mekor HaChaim, oui, elle s'appelle la source de vie, où tu coupes le contact avec la source de vie. Maintenant, quand on coupe le contact avec la source de vie, c'est ce qu'il appelle le Zohar, que la Sitra Acha, elle vient, c'est ça l'impureté. Parce que l'impureté, c'est pas magique. La pureté, c'est pas magique. Ça, c'est pour les gens qui ont un cerveau limité. Mais la pureté, on a dit, encore une fois, c'est une définition, c'est l'état d'être de la mort. Donc à chaque fois que tu n'es pas dans une dynamique de pureté, automatiquement, tu vas te générer de l'impureté. Maintenant, de l'impureté à petite échelle, bon, c'est pas très grave. Ça s'appelle la négligence, ça s'appelle la tête ailleurs, ça s'appelle le manque de conscience. Mais quand ça devient profond, ça s'appelle de l'impureté active, de la haine, ouais. De la perversion, c'est de l'impureté active. Toi-même, tu dis, mais j'ai des pensées complètement pourries, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des idées noires, comment ça se fait? Mais c'est, encore une fois, si tu l'as.
La dépression aussi.
Tout ça, ça va ensemble. Mais c'est comme si quelqu'un pose une question idiote. Il dit, mais quand on éteint la lumière, d'où elle vient l'obscurité? Mais l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Ça va? Oui ou non? Maintenant, est-ce que l'obscurité, elle peut bouffer la lumière? On a bien vu que la lumière, elle repousse l'obscurité. Alors, est-ce que l'obscurité, elle peut manger la lumière? Comme ça, on croit. Mais dans la spiritualité, oui. Et dans la psychologie, encore plus. C'est-à-dire que si quelqu'un, son côté obscur, ouais, il n'est pas en lutte contre, et là, il va te manger la tête. Et tu vois petit à petit les gens, ils deviennent négatifs, ils deviennent noirs, ils deviennent... Parce qu'en fin de compte, leur lumière, elle est prise. Et ça, ce qui est marqué ici, que quand la personne, elle ne fait pas cet effort-là, et c'est vrai, que souvent dans mes cours, j'ai parlé de joie, j'ai parlé de remise en cause et de maturité, les gens, ils croient que c'est une école des efforts, on demande de faire des efforts. Mais en vérité, c'est faux. On demande simplement de vivre. La preuve, c'est que la société, elle comprend ce problème-là. Mais elle, elle a remplacé par de la chimie. Pourquoi tu vas te faire des efforts? Prends du Prozac, prends du français. Laisse-toi aller. C'est quoi ton problème? T'as un signal d'alarme qui te dit ça va pas? Eh ben coupe le signal d'alarme. Et c'est ça l'antidépresseur. C'est un système qui permet aux alarmes de s'arrêter de sonner. Parce que tu as coupé le contact avec le système nerveux. Alors que nous, on ne veut pas nous. Nous, on veut que le signal d'alarme sonne et que tu vas arrêter la cause du problème. Oui? Tu vois que ton fils, il n'est pas bien. Ne dis pas, ah mais c'est à cause de ma femme ou de mon mari ou de... Ou... Mais non, il y a un problème maintenant, on va voir ce qui se passe. Tu vois que la tête de ta femme, tu vois qu'elle était bizarre. Tu dis pas, ah mais elle a mal dormi, elle a dû manger un truc qui n'est pas bien. Quelqu'un qui a mal mangé, il dort toute la journée. Quelque chose qui ne va pas, va t'occuper. C'est un signal d'alarme. Maintenant, comme tu le vois chez l'autre, tu peux le voir chez toi. À l'intérieur, je ne sais pas pourquoi je... Je vois un truc bizarre, j'ai des larmes aux yeux. Ouais, j'ai un passage, il a quitté sa mère, je me mets à pleurer. Oh, ça veut dire que tu es fragile. Ton sirène est fragile, c'est un signal d'alarme, ça sonne. Tu réagis ou non? Et je dis, non, c'est pas grave. Ça va aller, ne vous dérangez pas, je vais juste mourir. Non. Quelqu'un, il comprend ça. C'est cette logique-là. Que quand j'ai une dynamique personnelle de mettre ma méchamment en avant, et c'est ça ce qui permet. Le da'at, oui, la conscience positive, c'est d'aller amener la neshama en avant. Je mets ma neshama en avant. Maintenant, le symptôme positif de la neshama, c'est ça, c'est la bonne volonté, c'est l'investissement, c'est la recherche de la pureté, c'est la recherche du résultat, c'est la responsabilité, c'est ça le syndrome de la neshama. Positif. Parce qu'on connaît le contraire. On sait qu'est-ce qui se passe quand la neshama elle s'en va, et on sait qu'est-ce qui se passe quand la neshama elle apparaît. C'est pour ça que les tzadikim, oui, tu vois leur visage hybride. Parce que le corps, il est presque transparent. La neshama est transperce. Par contre, les gens qui sont angoissés, qui sont pas bien, on dit en français, il a un regard éteint. Son visage s'est assombri. Oui. Il n'est pas lumineux. Le contraire, l'autre, il a un sourire, le sourire a illuminé son visage. Depuis quand le sourire produit de la lumière? Ça n'a aucun rapport. Je dis non, mais c'est de la poésie, c'est pas de la poésie. Ouais. Comme il y a un regard, il peut être allumé ou éteint. Or, nous, on sait, et c'est marqué comme ça, ouais, que les yeux, c'est le lien avec la neshama. Même le teint de la peau. Tu vois, quelqu'un, il a un teint jaune, bizarre, gris. Quand même, tu devrais aller faire des examens. Non, okay, je suis un peu fatigué. Non, quelqu'un est fatigué, il a des poches, il a des cerfs, il n'est pas le teint gris. Genre, on dirait que la vie est en train de partir du corps. Cette logique-là, ça veut dire, et ça c'est très très important de le comprendre, qu'on est toute la journée en train d'essayer de maintenir sa neshama au premier rang, ou alors le contraire, de refuser une certaine réalité et de mettre le yetzer hara à la place. Pourquoi c'est comme ça? Alors, pour résumer, c'est comme si on disait que la neshama, c'est une espèce de compresseur qui produit de l'air comprimé. Je vous avais expliqué une fois que l'air a 13 ans. Oh, c'est vieux ça. Vous avez une bonne mémoire, je suis foutu. L'air, vous savez que roi en hébreu, ça veut dire l'air, et ça veut dire aussi l'esprit. Maintenant, l'air, c'est, si vous réfléchissez, vous parlez avec un physicien de l'air, c'est un truc très bizarre. Maintenant, le mur, il est là. Moi, je suis là. Si je fais comme ça, le mur ne va pas tomber. C'est vrai. Mais si je mets un tuyau fermé, entièrement étanche, je ne mets rien. Mais l'air qui est dans le tuyau, je le pousse. Et avec l'air, je fais tomber le mur. Ça s'appelle en français de l'air comprimé. C'est que les grues les plus puissantes du monde, elles fonctionnent avec l'air comprimé. Un avion réacteur, un avion, quand vous prenez l'avion, ouais, comment il vole l'avion? Vous avez vu qu'il bat des ailes? C'est rare. Non, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il absorbe de l'air et il le compresse. Maintenant, l'air qui est en dessous des ailes, il est plus compressé que l'air qui est au-dessus. Donc en fait, l'avion, il s'appuie sur l'air d'en dessous et il est attiré par l'air du dessus qui est plus léger. Donc l'avion, il vole sur de l'air. T'as pas un peu peur. Parce qu'il dit, attends, il y a 270 tonnes, on est tous là-haut avec les bagages, tous les bijoux de la grand-mère, c'est... Et pourtant, c'est que de l'air. Maintenant, tout le monde sait que la Rodama Chalit, le monde entier, ce sont que des exemples. Donc si quelqu'un est capable de comprendre la puissance de l'air comprimé, il est capable de comprendre qu'est-ce que c'est la puissance de l'esprit comprimé. Puisque roi, c'est l'esprit. s'appelle la concentration, s'appelle la volonté, ouais, s'appelle la décision, s'appelle d'être entier dans ses choix, c'est de les comprimer. Pour ça qu'on dit, elle d'abord remettre du fin à Rastom. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Et tout ce qu'on appelle la prière, ouais, la concentration, la pureté, en vérité c'est quoi? Ce sont des outils d'utilisation de la volonté. C'est un peu comme un champ de canalisation. Par exemple, il y a l'électricité partout, d'accord? Normal. Mais quand vous la mettez dans un câble électrique, ça fait de la lumière. C'est une concentration. Vous suivez ou non? C'est pareil. Il y a de l'eau, c'est bien, c'est une lumière. Mais quand tu la mets dans un canal, après le canal, tu mets dans un tuyau, après le tuyau, tu mets un tuyau fin, il y a une pression énorme. Si la mer, c'est la lumière, quand vous ouvrez le robinet, vous savez quand le robinet, il n'y a pas quelqu'un qui pédale pour envoyer de l'eau. C'est juste la pression. Le château d'eau qui contient l'eau, il est plus haut glacé que le robinet, donc il y a une pression. Maintenant, la pression, normalement, on essaie, dans les robinets, on la bloque à 3 kilobars. D'accord? Mais tu peux monter à 5, à 6, à 7, à 8, mais tu vas faire exploser ton robinet. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a personne qui pousse. C'est que la pression. Vous me suivez ou non? Bon, maintenant, si on a créé la pression dans l'eau et la pression dans l'air, pour que tu comprennes simplement qu'est-ce que c'est la pression du cerveau. Moi, je comprends que les gens, ils pètent les câbles. Je comprends que quelqu'un qui a une pression dans son travail pendant des années, il a des cellules du cerveau qui explosent et il fait une rupture d'anévrisme. C'est normal. Parce que la pression de l'esprit, elle est plus forte que la pression de l'eau. Et quelqu'un qui a vraiment la haine, il peut aller jusqu'au meurtre. C'est la pression. Et quelqu'un qui ne veut pas se sortir de sa maladie, il va arriver jusqu'au cancer. C'est une question de pression. C'est incroyable. Donc toute la vie, en fin de compte, c'est la gestion de cette pression. Est-ce que la pression, je vais la prendre en charge, je vais la prendre en main, oui? Et ça s'appelle Shomer Nishmato Akedusha. C'est ça qui est Shomer la Neshama. Maintenant, si vous avez compris qu'est-ce que veut dire Shomer Nishama, qui garde la Neshama, qu'est-ce que ça veut dire Toref Nishmato, Toref. Vous savez, le mot Toref, c'est le mot qu'on emploie pour la bête sauvage. Le lion, quand il déchiffre la bête, le lion, c'est pas un chirurgien qui va y aller avec un scalpel. C'est pas un boucher qui a un petit couteau pour nettoyer. Il va déchirer. Ouais. Il va déchirer. Ben exactement. La personne, quand elle se met en colère, elle déchire sa méchante. Elle se déchire. C'est pour ça qu'après, elle est en morceaux. Le problème, et c'est ça qui est dangereux, c'est que dans un groupe, dans un couple, dans une famille, dans une société, dans une communauté, la méchante, elle n'est jamais seule. On est liés. Donc quand tu déchires ta neshama, tu déchires celle de ta femme. Tu déchires celle de tes enfants. Puisqu'on est liés. Vous suivez ou non? Parce que Hachem, il a fait des choses. C'est que d'un côté, chacun vit une grande solitude. Et d'un autre côté, on vit une dépendance. Ça s'appelle en français l'amour. L'amour, c'est une dépendance. Puisque tu as besoin de faire un avec l'autre. Mais de faire un avec l'autre, ça peut être dangereux. Si l'autre, il est devenu fou ou folle. Ouais. Et d'un autre côté, c'est impossible de prendre. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des choses qui sont nécessaires chez l'un, il les a mis chez l'autre. Il y a des choses que la femme a besoin, c'est chez le mari. Il y a des choses que le mari a besoin, c'est chez la femme. Il y a des choses que les parents ont besoin, c'est chez les enfants. Il y a des choses que les enfants ont besoin, c'est chez les parents. Donc celui qui coupe le contact, il meurt. Et celui qui couvre le contact, il prend le risque de mourir. Maintenant, on ne peut pas vivre sans prendre le risque. C'est impossible. Sans le risque. Je vous avais déjà expliqué à l'époque que sans espoir, il n'y a pas de désespoir. Ouais. Mais sans espoir, il n'y a pas de vie non plus. Donc ça veut dire que d'avoir de l'espoir, c'est de prendre le risque du désespoir. L'autre, il n'a pas fait d'enfant. Il a adopté deux chiens. Il dit, comme ça, je ne serai jamais déçu. Même les chiens, ils peuvent être déçus. Moi, je vois des gens, ils me disent, ah, moi, j'ai peur, on fait des enfants, et après, il faut assumer la crise d'adolescence. Je dis, mais tu n'as pas compris. Mais quand tu ne l'essaies pas, ouais, ça ne change rien, puisque tu vas faire la même chose avec toi. L'enfant, c'est une occasion pour toi. La femme, c'est une occasion pour toi. Le mari, c'est une occasion pour toi. Maintenant, quand toi, tu vas travailler avec la personne, tu vas grandir avec la personne, tu vas évoluer avec la personne, eh bien, tu as grandi. Non, je préfère ne pas prendre le risque. Tu n'as pas compris, ça veut dire que tu vas être obligé de revenir pour refaire les calculs. Comme à l'école, pourquoi tu redoutes? Parce que tu n'as pas suivi le programme. Alors, tu redoutes. Alors, c'est quoi redoubler dans la vie? Il y en a qui redoutent de leur vivant, deuxième mariage, troisième mariage. Il y en a qui redoutent dans les affaires, dépôt de bilan, redépôt de bilan. Il y en a qui redoutent dans les vies, Gilgoul, deuxième Gilgoul, troisième réincarnation. C'est la réalité. Tu regardes autour de toi, tu vois bien que les gens redoutent. Vous me suivez ? Et ça, c'est quoi ? C'est simplement parce que à l'instant T où la question t'était posée, au moment où tu devais répondre à la question, au lieu de mettre ta neshama en avant, t'as mis autre chose. C'est comme ça. C'est très très puissant, c'est très fort, c'est très grand. Alors, puisque la neshama, elle contient cet air comprimé, qui est énorme, qui est l'infini, vient de Dieu, la neshama est l'infini, alors elle produit l'air comprimé. L'air comprimé, on l'a expliqué déjà, il va passer par les tuyaux du psychique. Après, il arrive dans les tuyaux du physique. C'est bon ? Et après, il arrive ici, là. Alors, c'est quoi ici ? C'est le branchement entre le monde intérieur et le monde extérieur. « Ahaim va m'avèl, payad à la chose. » La vie, la mort, elle dépend de la bouche. Maintenant, après, il y a la réalité. Alors, cette réalité, maintenant, on a expliqué, c'est une proposition. Maintenant, moi, je peux coller avec ma réalité. Je peux accepter ma réalité. Ou je peux refuser ma réalité. Alors, quand moi, j'ai le compresseur qui est là, et j'ai le marteau-piqueur. Vous avez vu comment ça se passe dans les chantiers ? Le marteau-piqueur, il est tranquille. Il est par terre, mort. Il bouge pas. Tu essaies de faire, il n'y a rien à faire. Tu prends le tuyau, tu branches avec le marteau-piqueur, tu ouvres le compresseur, et là, le marteau-piqueur, il devient dangereux. La puissance. Ouais. Pourtant, il est tranquille, hein ? Exactement pareil. Tu vois, le marteau-piqueur, ça peut être ton travail. Le marteau-piqueur, ça peut être ta créativité. Le marteau-piqueur, ça peut être la Torah. Ça peut être n'importe quoi. Alors, si toi, tu branches le tuyau de l'air compressé, c'est-à-dire de ta volonté, le marteau-piqueur, il va produire des choses. Ça va ? Mais il faut bien brancher. Il faut bien brancher. Des fois, il est mal branché. Hein ? Je sais, sinon je ne serais pas venu. Je vous ai déjà dit plusieurs fois pour les gens qui viennent régulièrement. Les autres, je ne peux rien faire pour eux, c'est les spectateurs. Mais les gens qui viennent pour travailler, qui comprennent que le cours ce n'est pas une source d'information. Vous n'avez pas besoin de moi, les cours sont rendus, c'est pour les écouter. Si on se voit, c'est pour pouvoir faire un travail. Le but du travail, c'est de changer. D'accord ? Là, vous êtes en train de faire au moins 6 mois de thérapie, avec un type compétent. Ouais ? Pas forcément moi, mais le type que vous payez pour le faire. Mais si vous le faites, maintenant, si vous venez pour les informations, c'est dommage. Parce que c'est bien, c'est intéressant. Écoutez, ça, quelque part, ça m'a concerné. Ça m'a fait plaisir. Hein. Vraiment, le rabbin, il est ouvert. On comprend des choses, ça m'a ouvert l'esprit. C'est bien, c'est bien. Ça m'a dit, c'est quoi ? Blin et vert, en 3 vies, je vais essayer de devenir adulte. Nous, on ne peut pas. On vient une fois par mois. Moi, personnellement, j'ai 51 ans et je me travaille tous les jours. Donc, je n'arrive même pas à imaginer comment des gens qui écoutent un cours une fois par mois, ils ont l'espoir de devenir quelqu'un. Mais je fais confiance que je vous donne beaucoup, beaucoup d'informations et je vous donne encore plus d'énergie. Et si vous êtes malin, vous l'utilisez. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que le monde réel est limité par le temps, mais le monde intérieur n'est pas limité par le temps. Donc le pouvoir de remise en cause n'est pas limité au temps. Donc l'accessibilité à la maturité n'est pas limitée par le temps. Donc on peut faire très vite un chemin très long du moment qu'on le fait avec sincérité. Ça va, c'est ça l'espoir de la conférence. Parce que si c'est pour transmettre des informations, c'est dommage de prendre l'avion chez toi. Vous aussi, vous pouvez passer un bon dimanche. Pourquoi se prendre la tête avec des informations qu'il faut ingérer, travailler. Et c'est ça l'importance. C'est ça, être haïti, la mahazikimba. Il faut que ce soit un arbre de vie. Il faut qu'il en sorte de la vie. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous êtes un peu plus mature, plus envie de grandir, plus envie d'évoluer, comme moi-même je rentre, et après je parle avec mes enfants de l'énergie que vous m'avez donnée, et moi j'espère que je vous donne une énergie pour qu'après quand vous rentrez, vous voulez grandir. Si c'est juste pour assister à un spectacle, il vaut mieux regarder Gad Elmaleh, c'est beaucoup moins puissant. Donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Que cette énergie, on a dit, elle sort de la neshama, ouais, elle traverse le psychique, elle traverse le physique, elle arrive dans la réalité. Maintenant nous avons le libre arbitre d'utiliser cette énergie. On peut l'envoyer vers un projet, on peut l'envoyer vers des trucs positifs, ou alors on peut l'envoyer vers du négatif. Mais alors cette énergie infinie, quand je la mets dans la matière, elle devient un besoin infini de matière. Quand je la mets dans la bouffe, elle devient un besoin infini de bouffe. Quand je la mets dans l'argent, il y a une manière de matin. Il ne sait pas pourquoi il y a 1 milliard, pourquoi il y a 2 milliards, il ne sait pas. Parce qu'en fait, l'appétit est infini, ouais, mais la matière est finie. Donc il met de l'infini dans le fini. Maintenant celui-là, il est fini.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met sa volonté dans sa tristesse. Il va lui faire une dépression, un monument. Parce qu'il a mis de l'infini dans le fini. Maintenant, il avait un petit problème ponctuel qui devait durer normalement de 16h14 à 16h32. Mais comme il a mis toute son énergie dedans, il est devenu un problème de 8 ans. Ouais. On va pas. Moi, combien de fois je parle avec des gens? Il est admirable. Comment ça se fait? Parce que dans votre bouche, c'est clair. On arrive à tout en 10 minutes, ça fait 6 ans que je me prends la tête. C'est parce que moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai seulement mis une bonne volonté dedans. Mais vous, vous avez une mauvaise volonté. La mauvaise volonté, elle génère, elle engendre, elle développe. Tu peux pas imaginer comment la bonne volonté, elle éclaire les choses, et comment la mauvaise volonté, elle les pourrit à une vitesse incroyable. Ça s'appelle que tu as mis ta nishama dedans, ou tu as mis le contraire. Ouais. Alors, si c'est ça, donc on dit, quand cette volonté, elle sort de la nishama, elle arrive dans la réalité. Maintenant, moi, c'est à moi de l'orienter. Alors, je vais la mettre dans quelque chose. Malheureusement, ou heureusement, des fois, l'étape d'après le marteau-piqueur dont on a parlé, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Vous me suivez ou non? C'est que je suis dépendant de l'autre. Comme ça, je parle, moi, je me dis, oui, mais ça, c'est très bien. Bon, et si on a fait tout, et que l'autre, il ne comprend pas, ou l'autre, il ne change pas, ça veut dire que maintenant, ta bonne volonté, ton être confiné, tu le branches sur un marteau-piqueur qui t'appartient pas. Lui aussi, il a une idée. Lui aussi, il a un problème. Comment je vais faire ça? Vous me suivez ou non? C'est que moi, j'ai tout misé sur cet enfant, et lui me déçoit. Et moi, j'ai mis de la bonne volonté avec mon conjoint, et il ou elle me déçoit. Alors, comment je peux faire? Ça veut dire quoi décevoir? Ça veut dire quoi décevoir? En ce moment, il y a une grande épidémie à Paris, je ne sais pas comment ça se passe ici. Les gens disent, oui, vous savez, Ramesh Chetri, finalement, je réfléchis, les sentiments ne sont plus là. Maintenant, il est là, enfin, il est là. Elle l'a fait, moi, elle a compris, ça lui a fait un choc, il y a une grosse bêtise, vous avez failli faire des grosses lourdeurs, et maintenant, voilà, il est prêt à changer, elle est prête à changer, voilà. Le mari que vous attendez, depuis des années, il est là. Elle m'a dit, je ne sais plus si j'ai encore des sentiments. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le film, c'est que quand toi tu es dans les efforts, l'autre il est dans la négligence. C'est normal, puisqu'il peut être négligent, puisqu'il le fait sur le crédit de tes efforts. Maintenant, le jour où l'autre il se met à bouger, parce qu'il a compris qu'il a trop exagéré ou elle a trop exagéré, toi qu'est-ce que tu fais? Tu prends le crédit d'un de l'autre et de l'autre, et toi tu deviens le vendeur. Tu dis, de toute façon, moi maintenant, je ne sais plus si j'ai des sentiments. Et je comprends, la personne que tu attendais depuis des années, elle est là maintenant. Donc on se. Je sais pas, la veille de Pourim, le matin, j'avais un couple comme ça. 10 ans de mariage, 4 enfants. Alors, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, ça fait 10 ans qu'elle est amoureuse de son beau-frère. Mais j'ai le traduit. Mais il n'y a rien eu. Mais dans la tête. Et maintenant, depuis 3 ans, elle parle beaucoup avec le beau-frère. Et le beau-frère, il a montré que lui aussi, il a des problèmes de couple. Et aussi, il y avait un soir, dans un restaurant, ils se sont fait un bisou. Ça va? Un bisou. Écoutez bien. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoutez, maintenant, elle est religieuse, lui aussi, elle est religieuse. Quand on fait une belle adhéra, la méadrise, pas la méadrise. Blague à terre. Elle m'a dit, Mira, ça suffit. Ce que j'ai ressenti, en une seconde, ce que j'avais ressenti avec mon mari en 10 ans. Mira. Je sais que ça donne certaines idées à certaines personnes, mais il va falloir vous maîtriser un petit peu. Je lui ai répondu, pourquoi? Parce que le goût de la vera, ouais, c'est pas le même que le goût de la misoire. C'est la différence entre le plaisir et la satisfaction. Quand tu manges une glace, tu as du plaisir. Mais quand tu fais un effort pour obtenir quelque chose, tu as de la satisfaction. Même avec ton conjoint, c'est une satisfaction, parce que tu as construit quelque chose. Dans la vera, c'est du plaisir, parce que tu n'as rien construit. Maintenant, le Yitzhara, il crée comme ça des arcs électriques. Ouais, et toi, tu comprends pas pourquoi. C'est normal, dans la vera. Dans la mitzvah, c'est autre chose. Tu veux la même vibration, tu peux l'avoir. Mais avec ta femme, c'est effort, communication, compréhension, après c'est sentiment commun, et après harmonie sexuelle. Tout ça pour arriver à la même vibration. Là, tu connais rien du tout. Tu prends dans le métro, un petit regard, mais comment j'ai fait? Parce que dans la vera, le littéral, il fait tout le travail. Dans la mitzvah, c'est toi qui fais le travail. Maintenant, on peut avoir la recherche du confort. Et dans confort, il y a fort. Ça va? Ça s'appelle la solution de facilité. Et bien, la colère, c'est la même chose. La colère, c'est un, c'est de la solution de facilité. J'ai pas envie d'assumer, j'ai pas envie de construire, j'ai pas envie de travailler. Ou ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, je vais exploser. C'est ça la colère. La colère, c'est une explosion de volonté qui n'est pas gérée. Parce qu'il y a une puissance énorme. Ouais. Il y a une énergie énorme, il y a une volonté énorme. Mais cette énergie, elle doit être bien gérée. Ouais. Vous savez, même quand vous installez un nouveau système de plomberie, et toutes les soudures sont faites, le plombier vous dit, n'ouvrez pas l'eau d'un seul coup. Ouvrez doucement, on voit où est-ce qu'elle est là, s'il y a une fuite. Parce que si vous ouvrez d'un seul coup, c'est possible que vous allez faire sauter les soudures. Ouais. Alors c'est pareil maintenant. Toi, tu es une énergie, tu as une grande ambition pour ton fils. Tu as une grande ambition. Mais attention, parce qu'au moment où tu vas lui impulser ta volonté qu'il soit quelqu'un de bien, il va falloir gérer le débit. Hein. Parce que si tu l'écrases avec la pression, tu vois les gens. Mais tu dois te prendre en main. Tu dois être un adulte. Tu ne te rends pas compte, c'est ton avenir qui est entre tes mains. Tu fais rien à l'école. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais prends-toi en main, mais réfléchis. Mais sois un homme, sois. Mais il a 8 ans. Tu lui mets une pression de 32 ans. Alors qu'il a 8 ans. Qu'est-ce que ça fait? T'as mal dosé. Parce que la volonté, elle est bonne. Oui, mais elle est mal dosée. C'est en général, c'est pour ça qu'on a des années de différence. Pourquoi en moyenne, on a 20 ans de différence avec nos enfants? Pourquoi? Eh bien, pour ça, pour pouvoir mesurer, pour pouvoir avoir, en français, on dit, avoir du recul. Ouais. Mais si tu te conduis avec la même jeunesse, la même immaturité que toi quand tu avais 8 ans, sous prétexte qu'il a 8 ans, mais tu n'as rien compris. Comme moi, par exemple, je viens pour faire un cours. Le cours, il est là. Regarde, c'est marqué 14-01-97. Ça ne nous rajeunit pas. Il est limite de rentrer au musée. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'information. L'important, c'est la pédagogie pour faire passer l'information. Maintenant, normalement, la différence entre l'orave et l'élève, c'est que l'orave, il transmet, l'élève, il reçoit l'information, mais que l'orave, il transmet la pédagogie. Vous suivez, vous? Maintenant, il y a des gens qui connaissent, mais ils n'ont pas de pédagogie. Maintenant, l'acquisition de la formation, ça prend 3 ans, mais l'acquisition de la pédagogie, ça prend 10 ans. Maintenant, toi, tu as eu 20 ans pour devenir pédagogique. J'espère qu'avec ton enfant, tu ne vas pas transmettre des informations. Ça, c'est dommage. Tu veux, non? Certes, tu as bien appris. Après, tu as bien pratiqué avec ton mari, avec ta femme. Après, tu as bien intégré. Maintenant, quand tu vas lui dire les choses, tu vas lui faire passer les choses avec l'énergie qui est nécessaire. Donc, tu ne vas pas lui mettre une pression de 40 kilobars, puisque tu sais qu'il a 8 ans. Et après il a 10 ans, et après il a 20 ans. Et si je vous dis la vérité qu'aujourd'hui, même un jeune de 20 ans, tu ne peux pas lui mettre la pression d'un homme de 20 ans. Et c'est normal. Il y a 5 minutes, il était sur la PlayStation. Il y a un quart d'heure, il était sur son jeu vidéo. Il y a une demi-heure, il était sur son DVD. Et maintenant tu viens, tu lui dis, prends-toi en main, sois mature, assume ton mariage. Bon. Mais il ne sait même pas de quoi tu parles. Il ne comprend même pas, même les mots, il ne comprend pas. Et je dis, mais ça va, je vais me marier. Non, mais dans un an, hier soir aussi. Après, il y a une maman qui m'amène son fils. Elle m'a dit, écoutez, il a 20 ans, il se marie en décembre prochain. Il n'est pas clair, il n'est pas régulier dans sa religion, il n'est pas religieux, il n'est pas régulier dans son travail, il n'est pas régulier dans ce qu'il veut. Je dis, écoute, tu sais que dans un an et demi, tu peux être papa. Il m'a dit, oui. Je dis, il ne faudrait pas que ton fils, en naissant, il soit plus jeune que toi, ou plus âgé que toi. J'ai dit, maintenant, si tu veux un programme, je te fais un an et demi de travail. Je sais que tu as des éléments, tu as été à l'école juive, tu as appris des choses, tu as des rabbinim et tout, mais je vois que le puzzle il n'est pas monté. Tu as toutes les pièces, il faut mettre le puzzle. Parce qu'il faut que sous la roupa, il y a un homme qui arrive. Si c'est un gamin qui arrive, ça va porter à conséquence. Vous savez, non? C'est qu'avec la bonne volonté et avec les bons outils, on peut rattraper ce temps-là. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire qu'on va envoyer la bonne énergie au bon moment. Le bon mot. La bonne pression, c'est très dur. Ouais. Des fois, tu sais que tu as raison et tu dois te taire. Des fois, tu as dit déjà un argument à l'enfant, ne lui rajoute pas un deuxième. Ne lui rajoute pas. C'est quand on attrape un enfant qui fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait? On lui règle 74 dossiers d'un seul coup. Maintenant, il a frappé sa sœur. Et tu ne travailles pas à l'école, et tu n'es pas sérieux, et tu as menti, et tu as volé ta grand-mère. Et alors, toi, tu dis, tu dis à ta femme, ah, tu dis à Zéris, je vais donner, j'ai tout rire. Et lui, après, il va voir sa mère, il dit, maman, j'ai pas compris ce qu'il veut pas faire, j'ai même pas compris pourquoi il va. Il m'a senti 54 minutes sur le programme. Pourquoi? T'as pas cette pédagogie de dire,
aujourd'hui, on va surtout ça et on va oublier le reste. Parce qu'on sait que Bamidzvah, pas tourner la Mitzvah. Après, dans 3 mois, on va parler de ça et on va plus parler de ça. Vous voyez ? Maintenant, je vais parler de la facilité classique. Je ne vais pas parler de la Sniout. Maintenant, je vais parler de la Sniout. Je ne vais pas parler du poker. Maintenant, je vais parler du poker. Je ne vais pas parler du shit. Tu ne peux pas parler de tout. Tu dis, mais c'est dangereux, t'en y passe. Vous savez, quand vous mettez la tarte au four et vous la regardez cuire, vous dites, 40 minutes 40 minutes c'est long. Ça fait de la peine. Si j'ai faim, c'est 40 minutes. Si j'ai très très faim, c'est 40 minutes. En réalité, c'est même pas 40 minutes, parce que 40 minutes de cuisson, plus de temps qu'elle refroidit, tu ne vas pas manger boulant. Alors si déjà une tarte, c'est 40 minutes, tu crois qu'un enfant, c'est combien de minutes? Si tu comptes en minutes. Et pourtant, il fait tard. Donc c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est qu'il va y avoir d'un côté, et ça, c'est un des plus grands paradoxes de la vie, c'est qu'il faut avoir une très très grande ambition. Il faut développer à l'intérieur de soi une très très grande pression. Mais dans la réalité, il faut accepter que les choses, elles vont se faire centimètre par centimètre. C'est comme si tu veux déplacer la muraille de Chine. J'ai marqué ça dans le programme de Shalom Bayit. J'ai marqué, il faut avoir une grande ambition dans son couple, mais il faut accepter que les progrès vont se faire doucement. Je vois des gens, ils ne font aucun effort, et un jour, ils disent, je suis déçu. Et non, ça prend du temps. Tu veux que l'autre s'agisse, merci, ça prend du temps. Tu veux la confiance, ça prend du temps. Tu veux une communication en toute sincérité, sans aucune agression, ça prend du temps. Tu veux que l'autre, elle arrête de penser que c'est son père, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est des centimètres. C'est comme le peintre, tu lui dis, fais le couloir, je suis en train de faire le couloir. Il faut que j'arrive jusqu'à là-bas, je vérifie si mon terrain, j'attends que ça, je refais la deuxième couche, c'est comme ça. Et bien, ça prend du temps. Mais tu es en train de le faire. Maintenant, comment tu vas faire pour, en même temps, avoir une grande ambition, et en même temps, prendre le temps? La preuve, c'est que les gens, souvent, à cause de leur ambition, au lieu de générer une énergie, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent une frustration. Alors, c'est quoi, je suis écouté? C'est pas ça, alors, c'est pas ça. D'ailleurs, celui-là, le type de sa belle-sœur, le mari, mais il ne sait pas que c'est l'histoire de la belle-sœur, pas du tout. Hein. Il me dit, j'ai compris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'étais très gauche. Alors, combien de temps ça va prendre? Je dis, c'est bon. J'arrive à l'introduire le film. Il m'a dit, bon, ça va, bon, maintenant, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. En fait, combien maintenant, on rentre à la maison? Je dis, non, pour l'instant, elle ne veut même pas que la touche, il faut se calmer. Ah, bon, je pensais que c'était bon, là, on a compris. Non, il va falloir la reconquérir, Il dit, ah bon? Ah oui. Il dit, mais l'olive c'est hier. Ça va prendre un peu de temps. Ils ne comprennent pas les gens. Parce qu'ils veulent des produits finis. Ils croient, j'en suis appuyé sur la machine, tac, ça sort. Mais non. Ça, ça fait un viol. On parle de l'amour, on ne parle pas du viol. Ouais, c'est un travail. Mais les choses, elles se construisent. Maintenant, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi? Et c'est connu. Plus tu as pris le temps, plus les choses, elles sont de valeur. Tu vois bien qu'en Chine, le mec qui t'a fabriqué une montre en 6 minutes 30, t'as vu la tronche. L'autre, il a mis un an et demi pour la faire, elle coûte 170 000 euros. Tu dis, ouais, c'est un peu exagéré. Et cette pièce, elle est faite à la main. Si c'est une montre suisse, ça n'a rien à voir. Alors, comme qui tu veux, toi, comme couple, tu veux quoi? Tu me dis, c'est comme ça. Tu tiens, après, tu dis, oh, il n'y a rien qui marche. Ou tu vas un truc. C'est pareil, l'éducation. C'est des jours. Combien de fois je vois des gens, mais vous avez des programmes, vous savez quoi faire passer à l'enfant? Je dis, non, il rentre le soir, comme ça va, c'est très bien, à demain, oh, mais tu penses, non, t'as un projet, t'en parles avec ta femme. Non, rien. Et après un jour, écoutez, on a des problèmes avec le petit. Il y a une bonne communication avec le petit? Non. Non, je pensais que c'était une plante verte, on l'arrose, il pousse. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. C'est très très compliqué. Et croyez-moi, de ma petite expérience, plus vous en avez, et plus c'est compliqué. Parce que le seul point commun qui existe entre les enfants, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Donc chacun c'est une galaxie. Toi tu dis, ça va, j'ai appris avec les enfants. Non, c'est une autre galaxie. Oh, c'est une autre. Et tu vas me dire, et les enfants c'est comme ça, mais ton mari c'est pareil. Ton mari, 10 premières années c'est un monsieur, 10 premières années c'est un autre monsieur, ta femme c'est pareil, elle change. La femme c'est plus compliqué parce qu'elle c'est carrément par période. Ouais. Il faut que tu t'adaptes à la période. Après c'est une autre période. À la grossesse, c'est une femme. Pas de grossesse, c'est une autre femme. Pendant la nida, c'est une autre femme. Pendant après le midi, c'est une autre femme. Pendant la ménopause, c'est une autre femme. Pendant la ménopause, c'est une autre femme. En présence de ta mère, c'est une autre femme.
Pourquoi tu fais cette tête? Je peux pas me comprendre. Mais c'est vrai, pas mère. Encore une autre femme, Raoul Boukolo, en présence de sa mère à elle. C'est une autre femme, là, qui n'existe plus. Maintenant qu'elle a bougé, hop, ça y est, encore une autre femme. Et voilà. C'est compliqué, comment tu vas faire? Maintenant, pourquoi il y a besoin de tellement de changements? Je vais te dire pourquoi. Parce que Baruch HaShem, vous savez, un diamant, plus il a de facettes, plus il est beau. Les différents, ce que tu appelles, toi, les différentes facettes, en vérité, c'est les différentes facettes du diamant. Maintenant, plus tu vas t'adapter aux différentes facettes, et plus votre lien, il va être fort. Maintenant, si toi, tu as une seule facette, qu'on appelle en français une vitre, il y a des gens dans ces cinq-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut... Je ne sais même pas par commencer. Il y a tellement de trucs. Je ne sais même plus quoi dire. Tellement c'est... Bah, c'est une vitre. Plage. Et c'est ça. Ouais, le diamant, c'est des facettes. Alors c'est pareil. Moi j'ai dit par rapport à l'autre, mais par rapport à toi-même c'est pareil. Tu as des centaines de facettes. Maintenant qu'est-ce qui fait le Yetzirah? Avec les facettes, il crée des problèmes. Le Yetzirah Tov, avec des facettes, il crée de la finesse. Il crée de la compréhension. Il crée de la maturité. C'est-à-dire que la complexité, quand c'est bien géré, ça génère du bien. La complexité, quand c'est mal géré, ça génère de l'amalgame et de la souffrance. Comment ils répondent? Oh, c'est trop compliqué. Écoutez, là, tout vient à la fois. Là, j'arrive plus à assumer. Là, je suis attaqué partout. Mais c'est normal. T'es un adulte. T'es en même temps un homme, en même temps un papa, en même temps un époux, en même temps un chef d'entreprise. C'est normal que ça vienne un peu de partout. Mais t'as eu le temps. C'était pas à 8 ans et demi, on t'a fait créer une entreprise. C'est pas qu'à 9 ans et demi, t'étais marié. C'est pas qu'à 11 ans, t'étais papa. Tu vois que les choses, elles sont venues. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il t'a donné l'occasion de t'adapter. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens, pendant des années et des années, ils s'arrangent pour ne pas s'adapter. Or, c'est quoi la première cause de colère? L'inadaptation. Tu t'es pas adapté. Donc tu t'affoles. Tu paniques, tu t'énerves, tu te mal cries. Pourquoi tu cries? Tu t'es pas adapté. C'est quoi le cri? Ça, c'est le cri. Le cri, c'est l'expression laser. Quand vous dites à quelqu'un, dis-moi ce que tu ressens. Alors, je sais pas, c'est comme une espèce de brûlure bizarre avec une espèce de grincement, et puis après une crampe. Tu vois, mais quand quelqu'un il a une douleur qui est tellement forte qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Mais qu'est-ce qu'il exprime aussi? Tout ce qu'il veut dire, c'est dans le cri. La preuve. Tous les parents qui aiment leurs enfants, ils comprennent les cris du bébé. Le cri du bébé. Ça, c'est un cri de douleur. Ça, c'est un pleur de douleur. Ça, c'est un pleur, il a faim. Ça, c'est un pleur, il a fini de dormir, il veut s'amuser. Ça, c'est un pleur, il fait genre ménique, venez me prendre dans les bras. Ça, c'est un pleur, ma soeur, elle m'a pris mon ballon. Pourtant, il a un an. Il s'est pas parlé. Comment tu retiens les pleurs? Pourquoi? Parce que le pleur, il n'est pas pris dans le pleur. Ouais. Le pleur, c'est l'expression chez l'enfant. Il n'y a pas encore eu la racine du da'at qui va interpréter, qui va apprendre à jouer un rôle. Il va être naturel. Donc si quelqu'un, il sait parler comme il sait crier. C'est ça pour ça qu'on appelle la prière « Shfirat HaNefesh ». Ouais. Que donc, sauf faire la chose. Si tu sais faire ça, c'est sûr que ta prière est entendue. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne prie pas. On s'écoute prier. Nous, on se met dans le rôle du prieur. Oh, alors mon Dieu, je rigole. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il nous fait le rôle du chanteur, du crieur. Alors, on écoute. Il a dit quelque chose, non, il fait du bruit. Pour l'instant, on attend. On attend qu'il ressente quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. On voit sur le véritomètre, ça ne bouge pas, c'est plat. Mais quand tu fais, tu le pinces. Tu crois qu'il réfléchit pour trouver exactement qu'est-ce qu'il ressent? Il crie. Ça va? Maintenant, prenez la pureté laser du cri. Et appliquez-le dans la sincérité. Appliquez-le dans la communication. La pureté laser. Ouais. Appliquez-le dans l'action. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Mais c'est dur. C'est qu'il faut déjà que tu sois bien élaboré à l'intérieur, que tu sois bien construit, pour qu'au moment où cette impulsion elle va venir, c'est bien comprimé, il va venir d'aller sur ma tête. Il est très fort. Ça s'appelle le désir d'être. Il est très fort. Au lieu de l'emmener dans une dérive qui s'appelle le désir d'avoir, ou au lieu d'emmener dans une dérive qui s'appelle l'Yetzirah, parce que c'est quoi l'Yetzirah? L'Yetzirah, c'est une dérive du flux existentiel. Il te prend ton désir d'exister et il l'emmène dans le mensonge, dans la bêtise, dans la lourdeur, dans l'entêtement. C'est une dérive. Tu ne t'appartiens plus parce qu'on a pris en main
ton énergie, on l'a mis ailleurs. Et toi-même, tu ne te reconnais pas dedans. C'est pour ça que tu n'arrives pas à reconnaître tes erreurs, puisque au fond, ce n'est pas toi qui les as fait. Maintenant, est-ce qu'on peut punir quelqu'un qui a décidé délibérément de se déresponsabiliser? Donc tu n'es pas puni sur la faute, tu es puni sur le fait que tu t'es déresponsabilisé. Déresponsabilisé. Ouais. Comment il a dit Matou? Ah, c'est un martal au fatatif. Parce qu'on t'a puni parce que tu as dit je n'ai pas fauté. Et ça, c'est la colère. Pourquoi? Parce que la colère est toujours vécue de manière pronominale. Qu'est-ce qu'on dit en français? Tu m'as mis en colère. Tu m'as mis en colère. Et tu dis, je me suis mis en colère. Non, regarde, tu dis, je mange, je dors, je bois. Tu dis pas, je me mange. Je me donne à manger. Je mange. Je parle. Tu dis pas, je me fais parler. Alors, c'est quoi, je me mets en colère? Tu me mets en colère. C'est-à-dire que c'est toi qui me mets dans la situation. Mais si toi, tu peux me mettre, c'est que moi, je suis passif. Donc dans la colère, on te reproche pas la colère, on te reproche d'avoir laissé monter la colère, d'avoir été tranquille et d'avoir suivi. C'est ça le reproche, de ne pas avoir lutté contre. Parce que là tu me mets, je vous avais expliqué déjà ça une fois, vous avez dit en français, tu dis mais pourquoi je t'ai mis en colère? Ah ben, tu dis mais je n'ai fait que réagir, tu sais quand tu te sens agressé, hein, insulté, hein, jugé, et ben tu te mets en colère. Ouais, c'est intéressant. Donc ça veut dire quoi? C'est que ça fait ça en français une réaction. Une réaction. Alors, si vous parlez bien français, il y a action et réaction. Action, réaction. Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'avais pris une décision. J'avais dit à Dieu, ma vie sera une série de décisions et non pas une série de réactions. Je ne veux pas réagir. Vous comprenez ou non? Je ne suis pas un métal que tu vas me peindre et je ne suis pas. Je ne suis pas de l'eau que tu me fais chauffer, je suis chaud. Je ne suis pas quelqu'un qui me fait du cavon, ça me fait plaisir. Je ne suis pas quelqu'un qui me dit un gros mot, ça m'énerve. Non, je ne veux pas être comme ça. Je vais être du tungstène. Le tungstène ne réagit pas ni au froid, ni au chaud. C'est mon choix à moi. Si je suis en réaction, ça veut dire que ça va dépendre. Est-ce que dans mon mazal, j'ai rencontré des vrais qui vont m'énerver? D'ailleurs, écoutez, je m'excuse, monsieur Larman, mais je m'excuse, il m'énerve. Il énerve. Hein. Elle m'énerve. Voilà. Moi, des gens comme ça, moi, ça m'énerve. Voilà. Moi, des situations comme ça, je ne supporte pas. C'est quoi? Un tout m'énerve. Mais si tout t'énerve, ça veut dire que tu es inadapté à tout. C'est pas normal. À 35 ans, à 40 ans, à 28 ans, à 65 ans, il faut te calmer, ta vie. Enfin, 65 ans, mais c'est quand tu vas te calmer? Même dans le cercueil, tu vas bouger encore? Quand est-ce que tu vas te calmer? Et c'est ça la différence. C'est le recul que tu as pris avec les choses. Maintenant, quand tu es nerveux, quand tu t'énerves, ça veut dire que tu décides d'être toi-même l'objet de quelque chose d'autre. L'objet de quelqu'un d'autre. Genre, l'énervant m'énerve. Ouais. L'énervant m'énerve. Donc moi, je décide d'être la victime de l'énervant. Mais moi, je ne veux pas être une victime. Hein. Pas du tout. En plus, je ne suis même pas victime de l'autre. Je suis victime du Yitzhara de l'autre. Non seulement le mien. Je l'ai usé mon histoire, maintenant je vais être victime du histoire de l'autre. Alors moi je me suis énervé, parce que moi j'ai subi, et l'autre est fait, il dit excuse-moi, ça m'a échappé. Donc je suis victime de quelqu'un qui est victime. Ça fait un club de victimes. Un plus d'être que l'autre. Ouais. Mais moi je veux pas. Moi je vais être libre. Moi je vais être libre. Maintenant je suis libre. Voilà, je suis libre. Là je suis bien, je suis libre. Quand tu me dis un truc, c'est bien. Ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Ça me. C'est une proposition. Après tu me dis, ah mais c'est hein, quand quelqu'un te fait une remarque. Ben, il a parlé. L'autre, il a parlé. L'autre, il a respiré. L'autre, il a arrêté. C'est la vie. Tu dis, ouais, mais quand même, des fois, c'est désobligeant. Hein, ça fait souffrir. Hein, ça fait mal. Surtout quand c'est quelqu'un dont on est proche. C'est dit tout à l'heure, l'indépendance. D'accord? Après, c'est toi qui peux affiner le filtrage. Mais il y aura un filtrage pour décider quel type d'agression tu vas subir. Ou le contraire, quel type d'agression tu vas faire subir le mec quand tu es très énervé du travail, tu vas pas déchirer ta femme et tes enfants, si c'est un type normal, j'espère. Donc tu vois bien qu'il y a des filtrages sortants. Donc pourquoi il n'y avait pas des filtrages entrants? J'ai reçu un mauvais chèque, je suis angoissé. Mais tous les vies sont les filtres, toutes les prières que tu as faites, les films que tu as mis ce matin,
Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Tu te rends compte? Tu te rends compte ce qu'il m'a fait? Ah, mais on a payé.
Va la conserver tout ça. L'autre, il mange du porc, il est sur le chat qui a payé, il t'énerve. Toi, ça fait 10 ans que tu as fait tu vois, sur le chat qui a payé, tu t'énerves. Alors, à propos de. C'est différent. Oh, mais c'est ce que je retrouve. Un million.
Ouais, pourquoi ce mort, tu lui donnes un chèque à payer un mort, il ne réagit pas. Quelle sérénité, quel calme.
Sinon, il ne pareil.
Il est mort.
Ah bon? Alors, quand c'est le problème des autres, tu fais le mort, pourtant tu es vivant. Alors, pourquoi là, tu t'énerves?
Tu sais faire le mort.
Ouais.
Alors, un jour, tu vas décider de préserver ton équilibre intérieur, parce que tu sais que sinon, ça te fait rentrer dans une chaîne de destruction qui ne va jamais t'arrêter. C'est ça être maître. Tu ne veux pas. Parce que là, tu t'énerves avec ton travail, après tu t'énerves avec ta femme, après tu t'énerves avec ta soeur, avec ta mère, après tu t'énerves avec le monde entier, après tu te bouffes la tête, après tu dis, je comprends pas, où j'en suis arrivé, mais je suis pas bien, ça, je vais prendre 3 whisky, ça va me détendre, après je dois fumer pour me détendre, après je dois prendre des cachets pour me détendre. Mais tu n'avais pas besoin de t'énerver, comme ça tu n'aurais pas eu besoin de te détendre. Mais ça, cette logique-là, de décider, de se détendre, parce qu'on s'est énervé, ça c'est la logique. Je casse et je répare. C'est ce qui est la logique du Bédiévède. Mais la Torah, elle ne parle pas Bédiévède, elle parle des Hatsila. Toi, tu dois être a priori, tu ne dois pas être a posteriori. C'est bon, non? C'est-à-dire, je vais arriver en retard, mais c'est pas grave, j'ai préparé un mensonge au cas où on me pose la question. Donc, tu as fait deux lourdeurs. Déjà, tu arrives en retard, en plus, tu mens. Mais c'est grave que tu mens parce que tu mens par a priori. C'est que tu as préparé le mensonge. Donc, ça veut dire que tu vas tordre ta tête pour préparer le mensonge au cas où on te demande. Maintenant, tu n'as plus besoin de mentir puisque tu es un menteur. Ça va venir naturellement. Et c'est fini. Parce que maintenant, tu n'es plus toi-même. C'est sûr, non? C'est ça ce qu'on appelle la dérive existentielle. La dérive du flux. Mais Yétara, il fait ça. Il fait dériver. Maintenant, toi, tu es le contraire. Alors, toi, tu dis, moi, je vais chômer, Nishmati, je veux garder ma Nishama. Donc, pour ça, étant donné que la vie, il y a beaucoup de changements, et que la vie, elle va me faire plein de propositions, il faut que je développe la capacité d'adaptation. C'est ça, je dirais à ta case. C'est d'être capable à chaque instant d'être à la hauteur de la situation qu'on vous propose. C'est pas simple, c'est pas facile, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris maintenant que plus je vais être une personne à fort potentiel, et plus la vie va être compliquée. Après, plus je vais être une personne à fort potentiel, plus je vais avoir des enfants à fort potentiel, plus je vais avoir des un conjoint à fort potentiel. Donc ça va encore augmenter. C'est pas grave. Quand il fait, tu es préparé pour. Mais c'est logique, là. C'est pour ça que c'est marqué ici, on a dit tout à l'heure, que celui qui est coléreux, il est comparé à un idolâtre. Ouais. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Shabbat d'Akouf? Elle dit « Ameshaber kela vechamato, yere benecha ki arovet avodazara ». Celui qui casse ses ustensiles, qui casse ses qui déchire les vêtements ou qui casse les choses à cause de la colère, il doit être à ses yeux comme un idolâtre. Alors c'est quoi un idolâtre? Un idolâtre, c'est que c'est quoi le plus haut niveau d'idolâtrie? Le plus haut dans le monde, c'est Dieu. D'accord? Le monde, le plus haut, c'est Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, comment je vais régler ma problématique spirituelle? Comment je vais gérer ma frustration de l'existence de Dieu? Je vais trouver une solution. Je vais prendre un bout de bois. Je vais le tailler, je vais lui donner une forme de visage. Je vais le mettre en face de moi et je vais dire « Oh mon Dieu, oh je me prosterne devant toi. » D'accord? Après je dis « Bon, je vais tailler, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Il n'a rien à dire, il a que je vais dire. Alors c'est quoi? Je vais dire « Oh toi mon Dieu qui m'a demandé d'être tolérant. Oh toi mon Dieu qui m'a demandé d'être gentil. » Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fabriqué le bon Dieu et maintenant je lui donne la volonté. Donc en réalité, c'est quoi l'idolâtrie? C'est la manière la plus fine de rendre divine sa propre volonté. J'ai fabriqué Dieu, j'ai déterminé le corps de Dieu, j'ai déterminé les limites de Dieu et j'ai déterminé la volonté de Dieu. Je suis Dieu. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » y ressemblent. Je. Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Pardon ? Et c'est quoi l'idée ? Alors sachez qu'un homme qui fait une avéra, par exemple, il a rendu sa volonté de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux, il a rendu sa volonté de Dieu. Moi j'ai le droit de crier, toi t'as le droit de te taire. C'est pas le bon Dieu, c'est pas le décideur. Maintenant je l'ai fait parce que j'ai de l'argent, parce que je suis beau,
parce que je suis intelligent, parce que j'ai une mainmise sur, psychologique sur toi, parce que je sais profiter de tes faiblesses, ça ne change rien. J'ai décidé que moi je suis le dieu de la situation. Maintenant je suis le dieu de la situation ou dieu de l'univers, c'est pareil. Parce que mon univers à moi, c'est quoi? C'est ma famille, c'est mes amis, c'est ma communauté, c'est ça. Donc je vais être le dieu de mon univers à moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divinisé ma volonté. Maintenant moi je casse les objets autour de moi, ça veut dire quoi? Je vais offrir sur l'autel de ma colère les objets de la maison. Alors Ravolpe, il dit, en vérité, moi j'aurais voulu me défouler sur toi. Mais j'ai même pas le courage de me confronter à toi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déchirer ces objets. Parce que ça te représente. Alors je peux te toucher par intermédiaire. Genre je déchire tes robes, soit je déchire tes livres, soit je dis jette tes définis dans la poubelle, tu m'as saoulé avec ta religion. Mais comment te toucher les définis? Non, c'est pas les définis, c'est pour te toucher à toi, parce que je savais que tu étais sensible à, aux définis. Comme j'insulte ta mère, pourquoi t'insultes ta mère? Elle a rien à voir. Ouais, mais je vois des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, encore, c'est à cause de la famille. Ouais, ta mère. Attends, ça fait 15 ans, ça y est, on a coupé le cordon là maintenant. On a fait 14 enfants tous les deux, on peut parler de nous deux. Non, de toute façon, ta famille, ils m'ont jamais aimé, et parce qu'on fait une tarasse, eux, ils ont des conditions. Mais ça y est, on passe à autre chose. Maintenant, on est tous les deux, on est dans le lit. On fait des enfants à deux, pas à trois ou à quatre ou à cinq. Encore, tu vas me parler de ma mère jusqu'à quand? Oui, mais de toute façon, j'ai bien réfléchi. Et j'ai lu 2 livres de psychologie aux toilettes, parce que toi, t'es soumis à ta mère, parce que toi. Les gens deviennent des psychiatres maintenant. La psychologie, vous entendez à la radio, les trucs à 2 francs pour faire rêver les indécis, ouais. Mais pourquoi quelqu'un qui a un cerveau, il peut se réfugier dans des lourdeurs pareilles? Parce que ça lui permet de maîtriser la situation à moindre frais. Mais c'est l'inverse que tu peux faire. Tu peux dire, moi je suis marié avec toi. Donc le problème c'est nous, la solution c'est nous. Maintenant on a un problème avec cet enfant. C'est vrai qu'il y a l'école, c'est vrai qu'il y a la rue, c'est vrai qu'il y a Internet, c'est vrai qu'il y a une etc. Mais moi je travaille avec l'enfant, je ne travaille pas avec le reste. Maintenant, si lui, je le renforce, lui, il va assumer le reste. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, au lieu de me battre avec la solution, je me bats avec le problème. Alors, je nourris le problème. Donc, le problème devient grand. Mais l'enfant, c'est la solution. Il devient faible. Donc, maintenant que l'enfant est faible et que le problème est grand, je dis, oh, je m'en sortir. C'est un gros problème. Ça va? Chez toi, tu fais la même chose. Puis, il y a un problème qui se pose. Alors, je dis, en quoi ça me concerne? Quelle est ma part dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux améliorer? Donc je prends Hachem et moi, le moussard et la Emouna. Et je regarde le problème. Maintenant je le vois différemment. Les gens ils font le contraire. C'est pas moi, ça, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Le bon Dieu, je ne sais pas s'il existe. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste le doute et la névrose. Allez, vas-y, 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 va. Retourne, va. Et tu arrives pas, c'est normal. La Emouna, c'est une force énorme. Hein, la sérénité de la Emouna. Ce sont ces ce qui arrive, ça doit arriver. Voilà. Mais oui, mais c'est un petit peu fataliste. Non, mais t'as pas compris. Quand j'ai enlevé les 50% du problème qui sont l'absolu, il me reste la réalité, je la gérer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges l'absolu avec la réalité. Donc tu t'entends jamais. Parce que chaque fois que tu vas assumer, tu dis, et qui a dit que ça dépend de moi? Allez, vas-y. Hop, j'ai responsabilisation. T'as compris ou pas? Alors que quand tu dis que Dieu, il a décidé, c'est-à-dire que Dieu, il a dit, moi, je prends ma part, toi, tu prends la tienne. Vas-y, prends ta part, toi. Donc tu peux plus te balader entre l'absolu et toi, puisque ta part à toi, elle est définie. C'est un très grand piège, la philosophie. Moi, j'ai bien goûté à ça, je peux vous en parler. Ouais. Mais celui qui ne fait pas attention, il peut être un philosophe de bas niveau. Ce qu'on appelle le niveau K, le K-niveau. K-niveau. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la possibilité, elle est donnée. La réalité, elle existe. Après, qu'est-ce qui se passe? On me donne cette proposition. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans. Maintenant, je peux coller avec, 100%. Question-réponse, 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 question-réponse. Et ça, c'est un effort perpétuel d'adaptation. Comment on appelle ça? On appelle la sablanous. La sablanous, la patience, c'est le contraire de la colère. Maintenant, puisque la colère, c'est l'inadaptation, donc la patience, c'est l'adaptation. La patience, c'est pas grave, je comprends rien, je prends sur moi, ça va aller, Dieu est grand. Non. Ça se passe dans la tête, la sablanous. Ça se passe dans la tête, ouais. Je dois bien comprendre. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'a priori, il ne faut pas supporter. Moi, je vois des gens qui me disent, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils, il m'a frappé. Hein? 14 ans, j'ai mis une basse. Est-ce que c'est normal? Je lui dis, mais la basse, c'est pas grave. Il me dit, comment c'est pas grave? Je lui dis, non, la basse, c'est pas grave. Parce que la basse à 14 ans, ça veut dire des gros mots à 13 ans. Ça veut dire qu'il t'a claqué la porte à 12 ans. C'est qu'à 6 ans, il t'a craché par terre, il est parti.
c'est qu'à 4 ans, il t'a frappé, en rigolant, il s'est allé se faire. Donc c'est ça qu'il fallait voir. Qu'est-ce que tu regardes la fin maintenant? Regarde le début. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton laxisme à toi, il a laissé l'autre devenir un sauvage. C'est ton laxisme. Donc là, à ce niveau-là, ça veut dire quoi? C'est pas la patience. C'est justement de ne pas le supporter. Mais pas négatif. On agit parce que c'est nécessaire d'intervenir. Donc ça veut dire que la patience, c'est une adaptation à la réalité au fur et à mesure qu'elle évolue. C'est pour ça qu'il dit le Rabot de bien sûr incroyable. Mali Savlanou, qu'est-ce que c'est la patience? À Savlan, donné marache, les Adam annoncé massacre Kavet. Le Savlan, le patient, il ressemble à quelqu'un qui porte un poids très lourd. Et même qu'il est très lourd sur lui, ou Mamjir la Lechen Bedarko, il continue à aller dans son chemin. Et il ne va pas refuser de porter parce que c'est lourd. Après, il dit, c'est tellement vieux, ça est passé. Il dit, il en est de même dans les relations qu'on entretient avec l'autre. À nous, Rohim, nous voyons, des Shomrim et entendons. Beaucoup de choses qui ne vont pas selon notre esprit, selon notre façon de penser, selon notre mentalité. Ou Bechandor, et malgré cela, Mashikhim Liyot Haverim Tovim, nous continuons à rester des bons amis. Ça veut dire quoi? Il a dit le sablat, c'est quelqu'un qui porte un poids très lourd, et qui marche. C'est très très important que les deux conditions soient remplies. Je vous dis la vérité. C'est quoi marcher? Marcher, c'est continuer à vivre, continuer à éviter, continuer à s'aimer. Le poids, c'est quoi? C'est quoi le poids? C'est quoi le poids? Lourd. Le poids, c'est la différence de l'autre. Maintenant, il y a trois cas de figure. Il y a des gens qui marchent très bien, mais ils ne portent pas le poids. Il y a des gens qui portent le poids, mais ils marchent plus. Et il y a des gens qui portent le poids et qui marchent. Maintenant, celui qui porte le poids et qui marche plus, c'est celui qui est écrasé par la différence de l'autre. Il est trop grand, il est trop beau, elle est trop forte, elle est trop belle. De toute façon, ça ne commence même pas, c'est trop difficile. Donc soit ils se mettent en victimisation, soit ils veulent écraser l'autre. Ils ne peuvent plus avancer. Parce que quelle différence, que tu sois obsédé par la beauté de l'autre et par l'intelligence de l'autre, au point que tu n'arrives même pas à envisager la tienne, ou alors, au contraire, que tu sois obsédé par la méchanceté de l'autre, quelle différence? Quand tu avances au niveau de l'obsession, ça veut dire que la chose ne t'appartient plus. Tu n'es plus cholette, tu n'es plus maître de la chose. C'est dangereux. Donc toi, tu es écrasé par le poids de l'autre. Okay, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas comment il est, il me tue. Je lui dis, comment ça, pourquoi ça vous met dans un état pareil? Mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas qui c'est. Mais je lui dis, il est comme il est. Il est comme il est, c'est un avis, c'est Hitler. Mais vous pouvez décider. Et même dans l'écran de la mort, ils ont réussi à mourir avec dignité. Ils sont morts avec dignité. Alors vous pouvez vous maîtriser ou non? C'est trop facile, vous ne connaissez pas. C'est vrai que les chiens, lui c'est un chien, mais toi tu te mets dans le rôle de la souris. Et la souris elle prend, ou tu peux dire non? Non, tu es tout nu devant la chambre à gaz et tu es digne. Et lui il a dit avec son manteau et tout ça, et il dit allez, ça juif, allez, pleure! J'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un livre sur les camps de la mort, quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie. Il a dit, on a jeté des cocktails de Molotov sur les nazis, et les nazis sont mis à crier. Il a dit, on était choqués. Il a dit, parce que jamais les juifs, ils crient en mourant. Le juif, on le frappe, on l'insulte, on le tue, il pleure pas, il crie pas. Et l'allemand, il meurt comme un chien. Il se rend pas que c'est la race supérieure. Et donc, la dignité jusqu'à la mort. Alors, si la dignité jusqu'à la mort a plus forte raison durant la vie, c'est ça la dignité. C'est que tu ne laisses pas partir, tu laisses pas partir ton enveloppe de solidité, tu ne laisses pas partir ton squelette de respect de toi-même. Ça ne bouge pas, c'est solide. Ou le contraire, tu es tout détruit, et tu te vas crier, tu te mets dans un état, et tout. Eh bien, puisque je suis victime, eh bien, j'ai le droit d'être un enfant, j'ai le droit de faire n'importe quoi. Mais non, tu t'as dit ça. J'ai dit, moi, j'avais un gros problème avec quelqu'un que j'estimais beaucoup, et tout ça. Quelqu'un de grande valeur, mais je savais qu'il était en ce moment, il était un peu déséquilibré.
Il a voulu me pousser à bout, m'énerver. Heureusement que j'avais travaillé pour la colère. Et à la fin, il a fait crier pendant 3 heures. Et après, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, à l'époque, j'avais plus de 40 ans. Je lui ai dit, écoutez, j'ai plus de 40 ans. J'ai 8 enfants. Je ne peux plus me payer le luxe de devenir CON. Non, mais je ne veux pas le dire, mais bon, vous l'entendez. Bien oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, normalement, si j'avais été un type normal, j'aurais dû dire, comment vous m'attaquez? Et je me soulève, et je le prends mal. Et après, je développe la haine. Et maintenant, j'ai la haine contre toi. Après, je rentre chez moi, et j'ai la haine contre la vie. Après, j'ai la haine contre mes enfants. Après, j'ai la haine dans mes cours. Après, là où je veux aller, je veux amener la haine. Et la haine. Ça, c'est valable à 16, 17 ans. Je dis, tiens, je vais faire 2 ou 3 ans de névrose. Mais je peux pas. Je peux plus. J'ai une grande famille, j'ai une femme que j'aime, j'ai des centaines d'élèves, je ne peux plus être débile, c'est fini, c'est un luxe que je ne peux plus payer. Mais comment quelqu'un peut faire ça quand il est dans l'agression? Mais bon, vraiment, c'est comme si c'était bien mon chou, chez toi il y a double vitrage. Mais il faut l'installer double vitrage. C'est ça la débilité. Tu as travaillé, tu as installé double vitrage. Donc quand il vient le choc, quand il vient l'agression, surtout de quelqu'un que tu respectes beaucoup et dont tu attends beaucoup, donc le choc il va être proportionnel à l'attente. Ça dépend. Si tu t'es mis en position, écoute, attention, de dépendance, donc tu vas crever. Mais si tu t'es mis en dépendance, en relation de partenariat, et bien des fois le partenariat, des fois ça marche, et des fois ça marche pas. C'est pas grave. Mais gros, c'est que même dans ta relation, des fois avec le rab, tu fais l'enfant. Des fois avec ton mari, tu fais l'enfant. Des fois même avec tes enfants, tu fais l'enfant. Tu fais l'enfant. Or, comme tu fais l'enfant, l'autre, par voie de conséquence, et par votre communication et de compensation, il fait l'adulte. Mais comme il n'a pas le moyen d'être un adulte, alors il fait un adulte idiot. Et toi, tu fais un enfant victime. Donc ça fait un parent-enfant et un enfant parent. D'ailleurs, ils font un enfant parent, c'est très... D'accord. Si c'est ça, ça c'est très important. Ça veut dire que dans la table à l'autre, ouais, je ne dois pas être écrasé par la différence de l'autre, je dois en profiter. Ouais, je dois profiter. C'est pour ça que la baraque, dans le positif, elle dit... Quand un rave, il se met en colère contre son rave, son élève, et que l'élève ne dit rien, il va prendre tel et tel à la faute. Mais s'il s'est mis 2 fois en colère et il dit rien, il va prendre beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est la tableau. La patience positive, ouais, ça donne du niveau incroyable. Alors maintenant, devant ton rave, tu supportes. Devant tes amis, tu supportes. Devant Dieu, tu supportes. Tu vas devenir quelqu'un de grand. Mais toi, tu supportes rien, toi. Toi, le type au feu rouge, il n'a pas démarré tout de suite, déjà tu t'énerves. Maintenant, je ne comprends pas, mais toi qui es au feu rouge, d'accord? Vous savez que quand le feu passe au vert, il y a une seconde de réaction. Maintenant, ça, c'est le premier qui voit le feu rouge. Après, celui de l'autre, il attend la réaction de l'autre. Ça fait 2. Le troisième, toi, t'es quatrième. Maintenant, toi, tu t'énerves pourquoi? Parce que les 3 voitures qui sont devant toi, ils ne sont pas passés quand le vert, il est passé. Tu t'énerves, d'accord? Mais ça, c'est un machin. Le bon Dieu, lui, il a un feu vert, il s'appelle la Teshuva. Ça fait déjà 18 voitures qu'il attend que tu te réveilles. Et pourquoi tu n'as pas vu? Il t'a envoyé les cours, il t'a envoyé le Shabbat, il t'a envoyé le miracle, il t'a envoyé la pharmacie, il t'a envoyé la santé, il t'a envoyé les agressions qui passent juste à côté de toi, il t'a envoyé les accidents de la route que tu les as vus et que tu passes à côté. Donc le feu vert, il est passé au vert depuis longtemps. Il s'est l'instant. Il attend. Doucement, elle va rallonger la jupe, ou elle va fermer ce décolleté, elle va attraper froid la pauvre élève. C'est un volume, mais elle l'a mis à l'envers. Ça y est, t'es marié, combien de mouches tu vas attraper? Oui, vas-y, couvre-toi un petit peu, oui. Donc c'est quoi? C'est un choix, c'est pareil, toi, ça y est, t'es marié, t'as une femme à la maison. Arrête de draguer la secrétaire, arrête de rigoler avec les clients, ça y est, ça suffit. Ah, mais ça n'a rien à voir, oh, je suis pas religieux comme vous, mais ça n'a pas de la religion, c'est une question, oh, t'es marié ou t'es pas marié. C'est une décision. Ça y est, mais en fait, t'as ta tête, t'es tranquille, t'as des besoins, voilà, ta femme, elle t'attend, t'as besoin de draguer, et tu dis, ah, tiens, vous habitez, qu'est-ce que vous faites en ce moment, hein? Là, vous êtes seul. Pourquoi t'as besoin? Qu'est-ce que t'as besoin? Et si tu dis oui, viens, on y va. Que tu vas faire, tu vas dire, ah, excusez-moi, j'ai volé. Et tu vas dire, eh, ça arrive qu'une fois dans la vie, ça. Mais bon, non, c'est que les gens, pour savoir s'il y a une fuite de gaz, ils cherchent avec des allumettes. Après, ils disent, il y a eu une explosion. Au contraire. Même si l'autre te fait un clin d'œil qu'elle va t'arracher l'œil, toi tu fais genre le baha qui comprend rien. Tu penses à ta femme, tu penses à tes enfants. Hachem, protège-moi, Hachem, protège-moi. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire ça, peut-être il faudra te remarier. Maintenant, c'est quoi? Parce que c'est une perte de contrôle.
Ouais.
Cette perte de contrôle, c'est exactement la même que dans la colère. Parce que là, dans la tentation, tu te mets entre les mains du Yetzer. Là, dans le mensonge, tu te mets entre les mains du Yetzer.
Et bien, dans la colère, c'est un très, très haut niveau de dépendance au Yetzer. Très haut. C'est pour ça que la souma de la colère, elle est tellement puissante.
Donc, si c'est ça, la vie de Sablan, qu'est-ce qu'il fait?
Il porte et il marche. Ça veut dire que tu dois porter la différence de l'autre. Mais tu continues à marcher. Hein.
Un enfant de plus et tu vas marcher. Et un client de plus et tu vas marcher. Et tu vas continuer à marcher.
Mais c'est lourd à porter.
Comment on appelle ça en hébreu? On appelle ça le rôle. C'est quoi le rôle? Le rôle. Comment on traduit en italien le rôle?
Le joug.
Le joug. Ouais.
C'est le joug.
Job.
Le joug.
Ouais.
Hein?
Jogo.
Le jogo.
En français, ça marche bien, en italien, ça marche pas.
Quand on dit tu portes le joug, d'accord. Alors en français, en hébreu, ça s'appelle le rôle, d'accord. Alors moi, j'ai fait un jeu de mots avec ça. Je dis, tu vois, quelqu'un, il porte le rôle, ouais, il porte le rôle, et tout le monde comprend ça. Tu sais, quand tu portes le joug des responsabilités, le joug du rôle de patron, le joug de payer ton loyer, le joug, tu portes, comme un cheval, tu vois, on lui met un joug. Ça pèse lourd. On a déjà pris un jour de... Avant, les chevaux, ils avaient des trucs comme ça. Vous voyez comment ça pèse lourd? Hein? Ça pèse très lourd. Quand tu mets ça sur ta tête, alors tu sais, elle s'est mariée maintenant. Elle s'est père de famille. Et tu sais, c'est une maman. C'est un joug, d'accord? Alors j'ai dit, quand tu portes le joug, d'accord, tu portes le rôle, d'accord? Mais il y a un mot en français qui ressemble au rôle, c'est le rôle. Le rôle, ouais. Alors là, on ne dit pas porter le rôle, on dit jouer ton rôle. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu joues ton rôle de mère? Est-ce que tu joues ton rôle de père? Alors moi, toujours, j'ai rigolé, j'ai dit, mais un rôle, dans le côté maturité, ça ne se joue pas. Comment est-ce que tu es convoqué à l'école? Alors le directeur, il dit, écoutez, monsieur, il y a des gros problèmes de discipline avec votre fils. Alors, je dis, écoutez, il dit, est-ce que vous jouez votre rôle de père? Alors tu dis, mais je ne vais pas jouer un rôle, je ne suis pas un acteur. Genre, je vais rentrer, je vais jouer le rôle du père. Alors dans le rôle du père, je joue le rôle du père, je joue le rôle de la mère, c'est pas un jeu le rôle. Naturel. Sûr, non? Non, c'est pas naturel, au contraire. La nature, c'est tempérer des responsabilités, c'est jamais des assumer. C'est contre nature, je veux dire, ben, c'est moi qui vais le faire, ben, c'est à moi de le faire. C'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai conçu, c'est ma responsabilité. Jusqu'à la fois, au moins, c'est moi qui dois le faire. Ça veut dire quoi? C'est que je vais prendre sur moi le rôle. C'est ça, Mekabel, rôle, malchut, shamaïs. Ouais. Comme tu prends sur toi le joug divin, tu prends sur toi le joug du mariage. Regardez ce qu'il dit Rabbe. Il dit, Mideparam, Shoalim, Khatanim, Alma, Aleem, la tête est d'Artam, Leyon, Khatunatam. Parfois, on demande au Khatanim, qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête au moment du mariage? C'est-à-dire, eh ben, on pense à la soirée qui va se passer, ou à l'après-soirée, ou on pense à combien de cadeaux ils vont avoir, ou combien de milliers d'euros ils vont recevoir, ou à quoi ils pensent. Il dit à ce qu'il dit. Vezoti asatenu la haine. Et voici quel est notre conseil, il dit Rabbe 2. Ba'amdam tachata koupa. Lorsqu'ils se tiennent sous la koupa, ikablu ala tsmam. Il faut qu'ils prennent sur eux. La tête est ol aisha admea ve'etrim shana. De prendre le poids, le joug de la femme, jusqu'à 120 ans. Pareil pour la cala, bien sûr. Bechol matin cheyé, quelle que soit la situation qui va arriver. Ou léolam, l'olifrop, rolam et alasmam. Et ne jamais déposer le joug de l'autre. Mais je comprends pas. Il vient de dire qu'il faut le mettre. Donc c'est évident qu'il ne faut pas l'enlever. Mais c'est bien ou non? Il dit. Ou Asher Amrou, c'est ça ce qu'ils ont dit à Khachamim. Il dit, Tov la guerre qui issa ol minorab. C'est bien pour l'homme lorsqu'il va porter le poids depuis sa jeunesse. Rol isha, le poids de la femme. C'est quoi le rôle? C'est le poids de l'autre. Maintenant la femme, elle n'est pas comme toi. Déjà elle n'est pas du même sexe, déjà c'est pas mal. Ouais. En plus de ça, qu'elle n'a pas le même âge. En plus, elle n'a pas la même maturité. En plus, elle n'a pas les mêmes priorités. Après, elle n'a pas la même définition des choses. Elle n'a pas la même valeur des choses. Elle n'a pas les mêmes intérêts. Elle est différente. Maintenant, toi, tu vas prendre le poids de ta femme, et lui, et toi, tu vas prendre le poids de ton mari. C'est un poids. Ouais. Maintenant, quand tu décides de le porter et de ne jamais le déposer, alors je vous donne un machal. Quelqu'un lui donne, vous savez, à l'armée israélienne, ils font ça, ils te mettent un sac de 40 kilos, ouais, et tu dois marcher pendant 40 kilomètres. Le mec, il va mourir. Ils font ça à la fin des... Combien de kilomètres ?
Dans le sable.
Ouais, dans le sable. Maintenant, quand tu portes un poids comme ça, qui est très très lourd, maintenant tu sens que tes épaules, elles vont tomber par terre, ta colonne vertébrale, elle va devenir un papillon, ouais. Et tu marches comme ça, encore un pas, encore un pas, encore un pas, encore un pas, encore un pas. Alors tu dis, j'en peux plus, je vais partir. Vas-y, dis. Tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Mais quand tu t'arrêtes contre un mur. Ouais. Mais tu n'enlèves pas le paquet. Parce que si tu l'enlèves, je vais pas l'enlever. Moi, des fois, ils m'appellent, des couples, ils me disent, écoutez, Rabbi Shetty, qu'est-ce que vous pensez de faire si on faisait un break? J'ai dit, break avec. Ouais. J'ai dit, attention le break. Si c'est un break pour prendre des forces, c'est bien. Mais si c'est un break pour fuir tes responsabilités, c'est mauvais. Parce que c'est très rare que quelqu'un il a posé le sac et après il reprend le sac. Pourquoi il va le reprendre? Il s'est habitué, c'est facile, il n'y a plus de soucis des enfants, il n'y a plus de peine, il n'y a plus quelqu'un qui le saoule. Il dit, c'est bien comme ça. Quand j'ai besoin, je viens. Quand j'ai pas besoin, je viens. Et l'autre, c'est ça, c'est ta raison. Et lui, monsieur, le papillon. Et il dit, non, mais c'est à cause du caractère. C'est parce qu'il a déposé le sac. C'est pareil dans le travail. Tu peux prendre une coupure, tu peux prendre, mais je ne pose jamais le sac. Ne pose pas le sac. Si tu déposes le sac, après tu ne veux pas le reprendre. La religion, c'est pareil. Ouais. C'est juste, c'est juste. Et tu dis, oui, mais je comprends. Pour ça que les vacances, ça fatigue. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils lâchent complètement. Après, quand ils reprennent, c'est plus fatigant. Le lundi matin, c'est une torture qui n'a pas été imaginée par le KGB. À cause de la coupure. Maintenant, vous avez remarqué, dans la religion juive, il n'y a pas de dimanche. Il y a le Shabbat. Mais le Shabbat, c'est pas reposant. Hein. C'est fatigant, le Shabbat. Les prières, les repas, le coma éthylique après le kiddush. C'est dur, c'est fatigant le Shabbat. Pour ça que dans les prières, ils vont demander le dimanche, même s'ils ne sont pas chômés le Shabbat, parce qu'ils veulent se reposer du Shabbat. En vérité, je vous dis le secret. C'est que le repos, c'est pas l'arrêt. Le repos, c'est le changement. D'accord? La semaine, c'est très matériel. Le Shabbat, c'est très spirituel. Donc, c'est ça qui fait du bien. Les vacances, par exemple, tu fais de la marche, tu fais du sport, mais tu n'as pas le souci du travail. Alors, en fait, tu reprends le travail. Mais là, tu étais à 100% avec tes enfants, et là, maintenant, tu es à 100% avec ton travail. Donc, tu ne t'es jamais arrêté. Si quelqu'un, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le repos. Ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'Olam Haba, pas l'Olam Hazé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Ils veulent genre, arrêt total. Ils se mettent dans une pièce, comme ça. Quand ils ne trouvent pas une pièce, ils trouvent des systèmes pour aller ailleurs. Des paradis artificiels. Voilà. Ou alors des cachets. Ouais. Mais après le retour, il est sur difficile. Puisqu'ils ont enlevé le sac. Comment ils vont remettre le sac? Tu poses pas le sac. Tu poses pas. Ouais. Maintenant, le même sac, tu peux le porter parce qu'il est lourd, tu peux le porter parce que c'est ta responsabilité, tu peux le porter parce que tu fais de la musculation, tu peux le porter parce que tu as une conscience, tu peux le porter parce que tu as un projet. Il y a des millions de raisons pour porter un sac. Mais trouve des raisons pour porter le sac, mais porte le sac. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des raisons dans le sac. Donc, même quand tu n'enlèves pas le sac, il est lourd le sac, parce que tu penses à l'enlever. Toute la journée, à partir j'en ai marre, et je ne la supporte plus, et c'est trop difficile, et si c'est un mariage, à quoi ça sert, et les enfants, c'est pas ce que je croyais. Et, donc, toute la journée. Donc, tu gardes le sac, mais en plus, il est lourd. Tu gardes les enfants, mais en plus, ça te saoule. Tu restes marié, mais en plus, ça t'étouffe. C'est dommage. Puisque si déjà tu portes le sac, alors quitte ton sac. Profite de ton sac qui les supporte de ta gueule. Tu les vois, les gens, je les vois, les gens, ils rentrent chez eux le soir. Ils marchent comme ça avec une magueule d'avion. Oh, t'as été repris, mais non, mais c'était une croix. Ouais. Donc, ils partent en vacances, tu vois la tranche, tu te dis, mais ils partent en vacances ou ils partent au camp d'avant? Ou ils sortent ce soir, et je vois les couples, bonsoir. On sort, ils sont à Wesson. Ah, ils viennent par là, c'est la parole. Je vois pas comment ils sont partis en fait. Il y a 3-4 jours, il m'a parlé, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais ce soir en Bretagne? Il m'a dit, au bout de 5 ans de mariage, ça y est, on a tout parlé. Ouais. Heureusement qu'il y a la télé. Je dis, ben, tu fais un resto. Il me dit, ben, une fois par mois,
J'ai fait faire un jeu de société avec un truc, et toi tu prends ta Guémara, ton Midrash, elle prend son livre, elle te voit, elle est contente de te voir, tu te un peu, tu fais un petit bisou, elle passe, elle passe à côté de toi. C'est une bonne soirée. Ah bon? Ouais. Dis-moi, je sais pas si je suis jamais chez moi, moi je cours tout le temps. En fait, je n'ai pas le temps de m'engueuler. Voilà. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais, c'est que quelqu'un en fin de compte, il se met évident le quotidien. De rendre le quotidien extraordinaire. Mais ça aussi, ça fait partie de la salonie. Ouais. Parce qu'en fin de compte, quand tu as passé une bonne soirée, ça se nourrit. Quand tu as passé un bon Shabbat, ça se nourrit. Quand tu as fait une bonne prière, ça se nourrit. De la même manière. Tu as fait un bon restaurant, ça se nourrit. Tu as une relation avec ta femme. Comment tu sais que c'est une bonne relation ou une mauvaise relation? Vous avez dit ça à l'époque, je ne sais pas. Vous en avez ou non? Si après la relation, tu te sens proche, c'est que tu as investi. Si tu te sens loin, c'est que tu as consommé. Libre à chacun de réfléchir. Ouais, mais c'est comme ça. Parce qu'on dit on fait un dans la tête, on fait un dans le cœur, on fait un dans le corps. Donc si tu as investi dans la discussion et qu'on s'est bien compris, ça crée des sentiments. Et ces sentiments, ils ont besoin maintenant de s'exprimer physiquement. Ouais. Et la preuve, c'est que si l'intimité elle évolue, c'est parce que justement la discussion elle évolue et que les sentiments évoluent. Donc à ce moment-là, ça nous rapproche. Mais si c'est une relation de consommation, ça ne sépare. Maintenant, quand il y a la séparation, c'est normal qu'il y ait malentendu, c'est normal qu'il y ait la colère, c'est normal qu'il y ait l'énergie, qu'il y ait la distance. Donc les gens, ils viennent chez toi, ils te disent, on ne se comprend pas. Après, ils disent, on ne se ressent plus, après, on n'est plus attiré l'un vers l'autre. Mais c'est le contraire. La salamite, on a dit, c'est porter le poids et continuer à marcher. D'accord? Donc c'est d'accepter la différence de l'être et de grandir avec cette différence. Et m'intéresse ton caractère. Ça m'intéresse ton point de vue. Je suis intelligent, mais je l'entends ton point de vue, ça m'intéresse. Pas de dire, ça va, j'ai compris, j'ai besoin encore ça. Voilà, je comprends. Elle dépend, elle dépend. L'autre chose, il la maintient chez Foucault et lui, il reste à la bourse. Donc, ils n'ont rien à voir. Toi, tu vas t'intéresser un peu à comment elle vit les choses. Elle va te donner son point de vue à toi. Et toi, tu vas l'intéresser à ce que tu fais. Alors maintenant, les flux, comment ils vont se développer? Dans les gens, ils se maintiennent dans des cales. Je sais pas dit maintenant, tu vas la rentrer dans la comptabilité. Dans les... Non, elle va te qu'est-ce que tu penses là? On a cette orientation. J'ai un peu ce souci entre moi. J'ai dit, viens, on réfléchit ensemble. Allez, viens, on pose des choses. Pourquoi un cerveau? Non, c'est pas un sac à main, ta femme. Ouais. Donc, elle t'aide. Et toi aussi, tu l'aides. Après, vous avez des choses en commun parce que vous travaillez maintenant par rapport aux enfants. Après, vous travaillez par rapport à la maison. Après, vous travaillez par rapport au projet. Qu'est-ce que tu penses? On achète ça, on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Après, par rapport aux vacances. Mais non, on s'en fout des vacances. On s'en fout de tout. Ce qui est important, c'est qu'on a créé un flux commun. C'est intéressant. C'est ça. Ben non, ben non. Ça demande une grande sablanousse. Ça demande une grande patience. Pourquoi? Parce que plus on attend de quelqu'un, et plus l'occasion de colère, elle est grande. Par exemple, le fils du voisin, il a cassé la vitre. D'accord? Il a pu jouer au ballon, il a tapé, il t'a cassé une vitre. Bon, tu vas le voir, tu lui dis, Nicolas, tu dois faire attention en tapant le ballon, de d'abord vérifier si il ne serait pas malencontreusement dans la direction d'une vitre, ce qui pourrait engendrer un dommage. Mais si ton fils à toi, il a cassé une vitre, ni explication, tu lui sauves la tête. Oh, et il y a Hamar, il y a Brett, il y a Nézéla, fils de ta mère. Ouais, pourquoi tu n'as pas la patience que tu as avec le voisin? Pourquoi tu as la patience que tu as avec le fils du voisin? Tu l'as pas avec ton fils, alors que peut-être que le bon fils est ton fils. Bon. Ah non, c'est quoi? Oui. Donc c'est quoi l'idée? En vérité, l'idée est très simple. C'est que dans la salle de la route, il y a des madrigoles, il y a des niveaux. Plus la personne, tu attends d'elle, et plus tu risques d'être nerveux. Parce que plus tu risques d'être déçu. Donc il faut faire l'inverse. En vérité, il faut être beaucoup plus patient avec les gens proches qu'avec les gens éloignés. Donc avec les gens éloignés, la sablanoute, la patience, c'est de la politesse. Alors qu'avec les gens proches, la sablanoute, c'est de l'amour. Ouais. Parce que l'enfant, il a peur de te décevoir. Et toi, t'as peur qu'il te déçoive. Donc il y a plus d'occasions de faire du mal. Ouais. Ta femme, elle compte beaucoup sur toi. Toi, tu comptes beaucoup sur elle. Donc il y a plus d'occasions de se faire du mal. Or, le mal, c'est quoi, on a dit? C'est qu'il n'y a plus de contact. Comme il n'y a plus de contact, il n'y a pas d'adaptation. Et comme il n'y a pas d'adaptation, il y a la colère. Tu sais que ton mari, il veut que tu déposes ce papier. Toi, maintenant, tu es un peu négligent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne déposes pas le papier. Donc, lui, c'est merde. Maintenant, toi, tu dois dire, écoute, c'est possible qu'il ne dépose pas le papier, mais ce n'est pas grave parce que je l'aime. Et toi, tu dois dire, moi, je veux déposer le papier parce que je ne veux pas lui faire de la peine. Maintenant, toi, tu as ce problème avec la négligence. Ouais.
Et lui, il a ce problème parce qu'il est trop, minutieux. Maintenant, c'est le contraire.
Ouais.
Toi, tu sais qu'elle est très sensible. Et toi, tu prends les choses un peu à la légère. Maintenant, elle est trop romantique et toi, tu es très cartésien. Maintenant, toi, tu dois mettre ton cartésien au service de son romantisme. Pour pas la décevoir dans son romantisme. Donc, tu penses que c'est des lourdeurs. Mais étant donné que tu l'as épousé, donc tu t'adaptes. Donc maintenant, quand toi, tu vas te fondre dans son attente à elle et elle va se fondre dans son attente à toi, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la fusion que ça va créer. Mais ça, c'est la savane. C'est que la savane, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce qui permet de déplacer les choses. Regardez, par exemple. On a inventé, à l'époque de l'Antiquité, que quand on voulait pousser une pierre énorme par terre, on y arrive de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des rondins. On a inventé la roue. Ouais. Même par exemple, vous pesez 400 kilos, c'est dur de vous déplacer. Vous jetez des billes par terre et d'un seul coup, regarde le patin à roulette, c'est une invention de folie. Ouais. C'est la roue. Maintenant, entre deux matériaux, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile. Tu mets de l'huile, ça passe. Dans le moteur, il y a de l'huile. Bah, c'est quoi le but? C'est la table à l'huile. Maintenant, c'est quoi le secret? C'est de perpétuer le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Quand quelque chose ne bouge plus, c'est que c'est mort. Maintenant, l'huile de la vie, c'est la table à l'huile. Maintenant, le choc, quand il n'y a plus d'huile, ça fait la colère. Ça fait des étincelles, ça craque, ça déchire. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens cette huile-là. Ouais. Tu as raison, tu as tort, c'est pas le problème, on avance. Ouais. Tu es dans la bonne volonté, tu es dans la proximité, tu es dans la réflexion, tu es dans l'attente. Le seul truc, c'est quoi? C'est que le dosage, il est différent pour chacun. C'est pour ça que quand on a dit tout à l'heure que c'est un effort d'adaptation continuelle, parce que tu t'adaptes à ton mari, après tu t'adaptes au garçon, le grand, après à la fille, qui est petite, après l'autre, l'autre qui a un gros problème de communication, l'autre qui a un problème de susceptibilité, l'autre qui a un grand caractère, l'autre qui a un petit caractère, comment tu vas faire? Et chacun, c'est une facette de toi. Donc tu dois t'adapter à chacun. Donc chacun, tu lui as la dose d'huile, parce que si tu mets trop d'huile, ça marche pas. Si tu mets pas assez d'huile, ça craque. Et c'est pas la même huile pour chacun. Tu deviens fou. Cet effort-là, oui, il sait ça, si quelqu'un il comprend ça. Alors en vérité, c'est ça ce qui est marqué, que l'âme c'est d'arche chez la dame, mais au réveil qui m'a béré. Toujours, l'esprit d'un homme doit être méhourab. C'est quoi méhourab? En hébreu, méhourab. Ça veut dire mélanger. Ouais. Mais méhourab, ça vient aussi du mot arev. Arev, c'est quoi? Garant, responsable. Et ça vient aussi du mot arev, qui veut dire la douceur. Ve'aravna, Hashem Elokecha. Alors, je vais déjà expliquer ça une fois, mais on peut y réfléchir une fois tous les 6 ans. C'est pourquoi le mot arev, il a 3 sens. Il veut dire responsabilité, il veut dire mélange, il veut dire douceur. C'est bizarre, hein? Alors, je dis le secret. C'est que le fait de vouloir se mélanger avec l'autre, c'est-à-dire de s'accorder avec l'autre, de s'adapter à l'autre, il faut savoir ce qu'est une responsabilité. Maintenant, quand tu prends sur toi cette responsabilité de t'adapter à l'autre, tu ne pourras le faire que si tu le fais avec douceur. Maintenant, toi, tu veux que la Torah, elle soit douce aux yeux de tes enfants. Ouais. Maintenant, ton fils, il voit que tu t'en fiches de la Torah. Donc, toi, tu ne te sens pas à rêve de la Torah. Donc, tu n'es pas méhourable dans la Torah. Donc, la Torah, elle n'est pas douce à tes yeux. Donc, pourquoi lui, elle va être douce à tes yeux? Pour qu'il se sente responsable de la Torah et pour se sentir mélangé avec la Torah. Maintenant, toi, tu dis, c'est ma femme, c'est mon mari. Donc, moi, je suis méhourable avec elle, je suis mélangé avec elle, je suis impliqué avec elle. D'accord? Maintenant, ça, tu peux dire, oui, des fois, non. Ah non, c'est impossible, parce que c'est une responsabilité. C'est marié, c'est la faut pas. C'est une responsabilité. C'est un rêve. Ouais? Maintenant, cette route-là, tu peux le vivre comme avec un preneur. Eh bien, écoute, on est marié, c'est pas possible. Eh bien, il y a des enfants, on va rester ensemble jusqu'à la mort des enfants. Non. Non. Tu peux aussi mettre de la route dedans, tu peux mettre de la douceur. Maintenant, sachez que d'être gentil, c'est une responsabilité. C'est pas simple, les gens croient. Eh bien, c'est la nature. Moi, je suis gentil, mais l'autre, je suis méchant. Non. Les gens qui sont gentils par nature, c'est des gens dangereux. Parce qu'ils vont sortir de leur gentillesse pour après faire du chantage. Ça s'appelle du chantage émotionnel. Je comprends avec tout ce que j'étais gentil avec toi. Alors maintenant, tu me rends du mal. Je comprends des choses qui étaient gentilles. Oui, tu n'es pas gentil, tu es calculateur. Quelqu'un qui est gentil, il prend la responsabilité du gentil. Voilà, je vais être gentil. Je vais être proche, je vais être doux, je vais être intelligent, je vais être fin. C'est une responsabilité, c'est un rôle. J'ai dit que moi, quand j'avais 18 ans, j'avais pas de patience. Quand quelqu'un me parlait qui était bref, je partais en courant. S'il insistait, je lui mettais un coup de poing. Il dit, mais t'es malade, toujours. Je peux pas écouter un ours. C'est le gaspillage des neurones d'écouter un rêve. J'arrivais pas. Ça, c'est 18 heures par jour à faire de la philosophie. Toi, tu viens, tu commences à me dire, oh, tu sais, j'ai trouvé un gym. Oh, comment tu trouves? Je peux pas, j'arrive pas. Alors, j'ai travaillé. Jusqu'à ce qu'après, tu peux même écouter des lourdeurs pendant 5 heures. Parce que tu sais que ça aide l'autre à exister, parce que ça aide l'autre à prendre une distance avec sa souffrance. Et ça demande du travail. Ça demande. Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que la savanouse, elle devient intelligente. Mais c'est parce que tu l'as appris sur toi. C'est pour ça qu'on appelle ça le rôle. C'est vrai que ça s'appelle un joug. Mais c'est bon. En fait, c'est bon pourquoi? Parce que c'est vrai que le joug pèse. D'accord? Mais le joug, il faut en muscler. Maintenant, plus c'est musclé, plus le joug est léger, c'est musclé. Donc en fin de compte, les gens qui refusent de porter le joug, ouais. C'est vrai qu'ils ne portent pas le joug, mais ils ne sont pas musclés. Donc comme ils ne sont pas musclés, tout leur pèse, puisqu'ils ne sont pas musclés. Donc c'est ça le paradoxe. Nous, on veut que les enfants, ils aient une vie facile. Mais on sait que quand ils ont une vie facile, ils deviennent débiles. Maintenant, comment on va doser la difficulté, ouais, pour qu'ils apprennent les valeurs du travail, de l'effort et de la remise en cause, ouais, et d'un autre côté, de ne pas les écraser en leur faisant subir. Je vous ai dit que chaque fois en réunitoire, chaque repas de Shabbat, ouais, il y a toujours un gosse qui crie, qui pleure parce qu'il voulait s'asseoir à cette place et l'autre qui vient à sa place. C'est possible, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu lui dis, va dans la chambre. C'est qui juste maintenant? Alors on attend, à l'hôtel. Alors tu vas la voir, tu dis, écoute, tu te calmes, on fait qu'il juste, tu te calmes pas, on... tu fais pas qu'il juste, tu restes à ta maison, on va manger, tu fais la chambre à pleurer. Alors elle fait. Un peu d'assurance, alors les autres ils disent, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, elle pleure. Et pourquoi elle pleure? Elle a mal. Mais où elle a mal? Je dis, elle a mal à la gava. Elle a mal à l'orgueil. Comment non? Comme l'enfant, tu lui apprends, quand il mange, il ne jette pas les manger par terre. Et le bébé, il est tout. Ah non, tu le prends, tu dis non, tu ne poses pas. Ah non, tu fais le repas. Il ne veut pas manger, il n'y a rien à manger. À demain. Ah, je veux autre chose, toujours, je veux autre chose. Il n'y a pas de. Voilà ce qu'il y a. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux. Tu veux les traumatiser, tu veux leur imposer d'avoir des choses qu'ils n'aiment pas. Non, parce que dans la vie, ils n'auront pas toujours le choix. Il faut leur montrer que des fois, tu es comme ça. Et quand tu dis oui, tu dis oui. Et quand tu dis non, tu dis non. Et d'abord, il accepte que tu as dit non, et après, tu l'expliques. Mais si tu l'habitues, d'abord tu l'expliques, après tu lui imposes, la vie elle donne pas d'explication. Comment il va faire pour accepter? C'est chaque acte de l'éducation, chaque acte de la maison, c'est l'éducation. D'accord? Maintenant toi, tu ne peux pas éduquer si tu n'es pas éduqué. Maintenant la plus grande qualité que tu vas apprendre à tes enfants, c'est la patience. Si tu leur apprends la patience, ils pourront tous supporter dans la vie. Si tu leur apprends pas la patience, parce que tu t'énerves, parce que tu craques, parce que tu es hystérique, parce que tu réagis au quart de tour, parce que tu cries pour n'importe quoi. Mais tu n'as pas compris, c'est leur capital de patience qui n'a pas été construit. Donc tout va leur sembler lourd. Tout va leur sembler difficile. Tous les caractères, ils vont être insupportables. Tous les événements de la vie, ils vont être trop difficiles. Simplement parce qu'ils n'ont pas appris cette qualité. Donc celui qui va apprendre la patience, bien sûr, parce qu'il la concerne déjà, il a fait gagner des années et des années de vie. Tu sais, c'est l'enfant quand il est devant toi. Maintenant, moi je ne parle pas seulement par rapport à l'éducation. Je parle que, en fin de compte, tu utilises l'éducation comme un canal de travail pour l'enfant qui devient un résultat personnel. Donc, tu veux ou non? Tu fais de la musculation pour toi quand tu travailles pour l'enfant. Quand tu travailles pour ta femme, tu grandis toi. Quand tu travailles pour ton mari, tu grandis toi. Quand tu travailles pour tes employés, tu grandis toi. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu vas devenir grâce à ce que tu as fait. Maintenant, une qualité principale qui va orienter les trois quarts de ta vie, parce que je vous ai dit, ouais, c'est pas pour rien. Si le soir il a dit que celui qui est coléreux, on a dit, ou mauvais Adono, il va se révolter contre son maître. C'est pour ça que la Gemara a dit que celui qui est coléreux, c'est sûr qu'il fait de l'erreur. S'il ne se voit pas, il est en cachette. Celui qui est coléreux, il fait des fautes. C'est un rachat. Mais de l'extérieur, tu vois rien. C'est pas possible. Ouais. Et c'est aussi marqué que où Adam a chalem, qui est Eno Chalem, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet. Pourquoi? Parce que s'il est complet, ça veut dire qu'il maîtrise en lui le côté incomplet. On a déjà expliqué que le côté incomplet, c'est l'Yetzara. Donc comment est-ce que quelqu'un est complet? Parce qu'il maîtrise en lui la tentation d'être incomplet. Et c'est ça le monde. Maintenant, la colère, c'est quoi? C'est la mauvaise gestion du monde. Il y a un manque, comment ça va venir? Il y a un manque de l'argent, ça va venir. Il y a un manque dans les résultats, ça va venir. Il y a un manque de sourire de l'autre. Je ne me nourris pas du sourire de l'autre, je me nourris de mon sourire à moi. Le sourire de l'autre, c'est un plus. Maintenant, si moi je n'ai pas de sourire et que j'attends le sourire de l'autre, donc ça devient une dépendance. Donc ça va être une occasion de chantage, de souffrance. Vous comprenez ou non? Donc ça veut dire celui qui gère son manque, ça veut dire qu'il n'a plus de manque, il est complet. S'il est complet, le caractère c'est le contraire. C'est l'expression du manque. Parce que tu t'énerves à chaque fois qu'il manque quelque chose. Ouais, ah, c'est pas comme je voudrais, c'est pas comme j'attends. Tu dois avoir cette force-là. Pourquoi? Parce que le principal, c'est que de toute façon, on va tous vivre et on va tous mourir. Le principal, c'est qu'est-ce qu'on va être à la fin de la vie. Est-ce qu'on va être quelqu'un de construit? Est-ce qu'on va être un diamant taillé? Ou est-ce qu'on va être un pauvre type avec des explications? À quoi ça sert? De toute façon, on va manger. Et on va dormir. Et on va avoir des relations sexuelles. Et on va gagner de l'argent. Et on va faire de l'argent. Et on va marier les enfants. On va faire les choses. D'accord. Et alors, le problème, c'est qu'est-ce que tu as obtenu à la fin? Tu vas présenter quoi devant le bon Dieu? Qu'est-ce que tu vas présenter? Un post-it, quoi? Avec des dossiers pour expliquer, voilà, à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de mes enfants, à cause de... On s'en fout de ces dossiers. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu vas présenter devant le bon Dieu quelqu'un qui est construit, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui a un lien avec la spiritualité qui est normale, quelqu'un qui ressent les événements, où tu vas présenter un post-it névrosé qui a besoin de s'expliquer sur chaque chose qu'il va pas faire. Ça, le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné un diamant brut et nous, toute notre vie, on taille le diamant. Et à la fin, on présente le diamant. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'explication. C'est pour ça que les gens qui sont bien, il n'y a pas besoin d'explication. Tu les vois, c'est bon. Par contre, quelqu'un qui ne se sent pas bien, tout de suite, la première chose qu'il fait, il justifie. Parce qu'il a passé la moitié de sa vie à préparer la réponse à la question qu'on ne posera jamais. Ou le contraire, quelqu'un il n'attend pas qu'on lui pose la question. Parce que la réponse, il l'a utilisée pour grandir, il ne l'a pas utilisée pour se justifier. Maintenant qu'il est grand, il n'a plus de questions. Et même si la question elle vient, elle vient d'un imbécile. Parce que comment tu poses la question à quelqu'un, tu vois qu'il a déjà réglé le problème. Il a réglé. La personne qui a réglé le problème, on ne lui pose pas la question. Et là-bas, c'est des gens de bas étage qui transfèrent leurs problèmes chez ceux qui les ont réglés. Parce qu'ils sont agressés par le fait que l'autre il atteint la perfection. Ça les dérange, parce que ça fait ressortir ce que l'autre ne sont pas. Donc quand ils accusent l'autre pour que l'autre se justifie, c'est parce qu'ils veulent donner la réponse que eux auraient dû donner. Hein? Mais quand tu n'es plus dans l'épreuve de la confrontation, tu vas rencontrer des gens qui eux aussi n'ont pas de problème. Parce qu'à Tovim, Ikravim, à Tovim, Ve'araim, Ikravim, Araim. Les gens complets, les gens bien. On rencontre des gens bien et se relie à des gens bien, et les gens tordus se relient à des gens tordus. Donc les gens tordus, ils passent leur vie à se justifier. Et les gens bien, ils passent leur vie à se comprendre. Et tout va très bien. Ça va? Ouais. Donc le cours est dédié, je sais que j'ai un peu tardé, le cours est dédié de Inou Nishmatam de David Ben Léa. Amen. Et aussi de Vera Bat Adel.
Amen.
Et de Avraham Shimon Ben Sifra.
Amen.
Et de Yahou Ben Aïcha, Isra Ben Aïcha. Et de Eliaou Ben Yair.
Mais
la chaîne de Gordé Chamot parmi les statuts d'Israël. Le prochain cours, c'est sur ta chaîne, c'est quand?
Le
29 avril. Le 29 avril. Alors, juste avant de vous laisser partir, j'ai appelé, étant donné qu'on ne va pas se voir d'ici plus tard, j'ai appelé des compilations de cours en MP3 sur cette table. Ils sont gratuits, sur votre disposition, il y a 10 cours. Ça va bien vous préparer sur notre chaîne, sur le Hamel, sur la Massa, sur la sortie du, pour qu'on accueille le Machia à la sortie de cette table.